Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bouh! Pardon pour la terreur, mais il va effectivement être question de fantômes aujourd'hui, ainsi que de pirates. Mais pas que, bienvenue dans l'hebdo d'Origami. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup Fanti pour ta contribution à ce pré-générique. Désolé encore une fois pour la terreur, mais il va effectivement être question de fantômes aujourd'hui dans l'hebdo d'Origami, puisqu'on va parler de Banishers. Ils sont plusieurs. Ghosts of New Eden. On va également parler de Skull and Bones. On va parler de bien d'autres choses également. Merci à vous. Merci à tout le monde, merci à tous les gens qui sont derrière leurs écrans actuellement et plus tard et avant. Merci évidemment à tous les gens qui nous ont permis de créer Origami avec la campagne Ulule. Merci à notre partenaire Top Achat pour cette émission. Merci à tout le monde, merci à cet incroyable plateau qui est autour de moi aujourd'hui. Merci à toi Héloïse d'être là aujourd'hui.
Merci à toi, merci ouais. La vie. Merci.
Bah, merci en fait, finalement. Tu vas bien ?
Ça va. J'ai plus de voix. Non, ça va mieux.
Ça va mieux.
Je risque peut-être de tousser un peu à droite à gauche de temps en temps. Ouais. Loin des micros, Sylvain, t'inquiète. Mais non, ça va.
Ok. Bah, content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci à toi, Gauthier aussi. Je vais t'appeler le GeForce, hein, parce qu'on n'est pas loin de l'anniversaire. De ce jeu, Final Fantasy VIII, tous les petits bébous étaient de sortie sur Twitter.
C'est vrai,
on pour dire oh lolo, c'était oh quand même un FF. Hein.
Ils sont quand même méchants avec nous, etc. 25 ans. Ouais. Bah, c'est vrai qu'à quelques jours, on y était. On y était pour cette édo. Très heureux d'être là. Ouais. Et je vois que il y a des personnes qui animent cette émission et qui n'oublient pas de saluer les gens au début.
Oh là là.
Et ça c'est fort.
Oh là là, ça te poursuivra toute ta vie. D'habitude, j'oublie de saluer Sylvain derrière sa régie. Je vais tâcher de ne pas le faire aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis en train de ne pas le faire. Je suis en train de ne pas l'oublier. Bonjour. Comment vas-tu, Sylvain ?
Ça va très bien.
Yes.
Merci.
Tu vas nous parler d'un jeu aujourd'hui aussi.
Je vais vous parler d'un jeu, exactement.
Ouais, c'est une émission très riche en Sylvain aujourd'hui, donc restez, hein, c'est important. On va commencer dès à présent. Mais avant tout ça, par quoi on commence ? Eh bah, par l'actu, mais ça me rend ouf de devoir le répéter à chaque fois, ça. Ça devrait être clair, normalement, au bout de 13 émissions.
C'est incroyable.
Je ne comprends pas, c'est l'actu, on commence par l'actu, toujours. Et cette fois-ci, comme les deux dernières fois, si je ne me trompe pas, on va même se payer le luxe d'un petit magnéto qui va résumer l'actu de la semaine et qui va démarrer dès maintenant.
Ça s'est passé cette semaine dans le petit monde du jeu vidéo, alors on en parle dans la semaine d'Origami. Et on commence ce point actuel avec des chiffres, des gros chiffres. Insomniac et Sony ont ainsi annoncé fièrement avoir écoulé plus de 50 millions de jeux Spider-Man, tous supports confondus. Le dernier épisode en date, Spider-Man 2, a désormais passé le cap des 10 millions de ventes. Plein de zéros, c'est également ce qu'on peut lire sur le bilan de Warhorse pour Kingdom Come Deliverance qui a passé la barre des 6 millions de ventes en 6 ans, et ce avant même l'arrivée d'une sortie Switch qui ne saurait tarder. Maintenant, 6 millions de joueurs, c'est vrai, c'est pas mal, mais la licence Football Manager, elle, en compte désormais 7 millions grâce à la démultiplication des supports. On vous dit ça, mais après, vous savez, la vie, c'est pas une compétition. Je plaisante, le point chiffre, c'est carrément une compétition, notons d'ailleurs le très bon démarrage de Granblue Fantasy Relink, qui pointe déjà à 1 million d'exemplaires distribués même pas 2 semaines après sa sortie. Même tarif pour Helldivers 2 qui approche déjà du million de ventes en 2 semaines et s'est offert un pic à plus de 200 000 joueurs en simultané sur Steam. A l'opposé, il est des studios qui doivent faire la grimace. En effet, les joueurs semblent déjà se détourner de Suicide Squad qui voit ses chiffres de fréquentation s'effriter jour après jour sur Steam, quitte à passer derrière ceux de Batman Arkham Knight. Ah ouais, quand même. Un peu de sérieux maintenant, il avait 55 ans, c'était l'un des visages essentiels derrière la série Suikoden et donc un des grands noms du JRPG. Yoshitaka Murayama s'est éteint le 6 février dernier des suites d'une longue maladie. Pilier du Konami des années 90, il quitte la société en 2002 pour créer en 2020 son propre studio Rabbit & Bear, au sein duquel il développait Eiden Chronicles 100 Heroes qui sortira en avril prochain. On en reparle, juste après. Et puisque l'on parle de Konami, sachez que l'éditeur japonais a été pointé du doigt par un des studios qui l'édite, en l'occurrence la Bluebird Team, à la suite de la diffusion du dernier trailer du remake de Silent Hill 2. Ce dernier avait en effet suscité les inquiétudes des joueurs, tant en termes d'ambiance que de rendu, et le PDG du studio semble bien décidé à ne pas laisser son équipe porter le chapeau. Piotr Babegno a ainsi estimé dans les colonnes d'Eurogamer que l'éditeur était responsable de sa diffusion et qu'elle ne reflétait pas l'esprit du jeu sur lequel il travaillait. Bonne ambiance. Turn 10 réagit après avoir répondu aux critiques concernant le dernier Forza Motorsport durant le mois de janvier. Le studio met ses promesses à exécution. Face à des joueurs réclamant un accès plus immédiat aux améliorations de leur voiture, l'équipe de développement a donc changé son système de progression. Ce dernier verra les différentes pièces des véhicules être accessibles dès le niveau 1 et proposera différents moyens d'obtenir des car points afin d'installer ces améliorations. On laisse les amateurs de Vroom Vroom vérifier dans le détail, mais Turn 10 n'a pas encore dit son dernier mot. En parlant de dernier mot, du côté de Dead Cells, cette fois-ci, c'est terminé. Il n'y aura plus de mise à jour pour le roguelite au succès colossal de Motion Twin. Pas d'horizon 2025, donc, comme le laissait penser une précédente feuille de route, mais plutôt une fin inattendue pour le jeu qui était entre les mains du studio parent Evil Empire depuis 2019. Si le communiqué officiel assure vouloir préserver la fraîcheur de Dead Cells, Sébastien Bénard, cofondateur de Motion Twin, parti depuis vers d'autres cieux, a affirmé que cette décision tiendrait en réalité aux relations plus couleuses entre les deux studios. Un « asshole move », selon ses propres termes, qui mettrait Evil Empire en péril d'un point de vue financier. On compte évidemment sur le French YouTuber pour suivre la situation de près. Vous avez déjà passé des centaines d'heures sur Flight Simulator, vous connaissez le ciel comme votre poche et vous ne savez plus comment épicer la monotone routine de vos Tokyo-Paris ? Voici justement qu'arrive le nouveau DLC pour raviver la flamme. Pur produit d'un bon gros marketing croisé, cette extension thématique autour des films Dune vous proposera un nouveau véhicule, l'ornithoptère Atreides Royal, ainsi que 3 missions et 6 défis supplémentaires. Le tout au-dessus des sables d'Arrakis est pour à peu près 0€. PNC aux portes, armement des toboggans et vérification de la porte opposée. Et enfin, que serait un magnéto respectable sans un point calendrier ? Alors voici le topo sur les dates à retenir pour cette semaine. Tout d'abord, notez qu'après une très bonne période d'accès anticipé, Sons of the Forest, la suite bien nommée de The Forest, sortira d'Early Access le 22 février prochain. Contrairement à ce que peut laisser penser son titre, What the Golf n'est pas vraiment un jeu de golf. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'après avoir fait ses armes sur mobile, PC et Switch, il arrivera sur toutes les consoles le 14 mars prochain. Troisième report pour The Thaumaturge qui passe désormais au 4 mars pour éviter de sortir en même temps que d'autres très gros noms du jeu vidéo, à commencer par un certain Final Fantasy VII Rebirth. Espérons que ça lui porte chance. Et enfin, on vous en a déjà parlé ici, mais petite piqûre de rappel pour vous rappeler que la deuxième partie du pass d'extension de Splatoon 3 arrivera le 22 février avec le DLC Tour de l'Ordre, qui donnera au jeu des accents de roguelite. Ça, c'est ce qu'il paraît. À vrai dire, j'ai toujours pas joué à Splatoon. Et voilà, c'est terminé pour le point actu de cette semaine. Retour en plateau, merci.
Merci pour ce point actu, Sylvain et Florian, qui a contribué à cette émission qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. J'ai même pas adressé l'éléphant dans la pièce, quelque part. Oui, Florian n'est pas avec nous aujourd'hui. Il va très bien, ouais. Qu'on ne s'inquiète pas.
Mais ça va arriver, ça, que des gens...
Oui, c'est normal. Ça. Il n'avait pas fait les deux jeux, moi non plus. Du coup, moi, j'ai décidé de présenter l'émission. et lui, il s'est dit, bah non, je vais pouvoir faire autre chose.
Bah, carrément.
Et il a tout à fait raison. Donc, merci pour ce point actu. Comme d'habitude, on ne parle pas de toute l'actu du jeu vidéo dans ce point actu, donc qui a pour but d'être un résumé plutôt des quelques événements sur lesquels on peut passer un peu plus rapidement. Il va être question d'autres types d'actualités prochainement, et je me tourne vers toi, Gauthier, parce que c'est toi qui vas nous en parler un petit peu.
Eh oui, on a carrément une lampe hein, sur le plateau qui est jaune normalement et qui a décidé d'être verte.
Pour, voilà.
Voilà, parce qu'il fallait absolument qu'on parle du X de Xbox. Hein, donc effectivement, hier soir, c'était le business update. Le business update de Microsoft. Donc une espèce de rendez-vous donné un peu sous forme de gestion de crise, on peut le dire, après deux semaines très houleuses, encore une fois, sur, pour la communication de Xbox, une série de fuites, mais des fuites de confiance quand même, hein, qui pointaient vers un futur changement de stratégie commerciale, notamment autour des exclusivités, qui est un sujet dont on entend parler beaucoup hein, en ce moment, aussi bien du côté de chez Microsoft que de chez Sony. Et ça a donné ça, ça a donné ce plateau avec des questions et des réponses écrites par les gens qui répondaient, et puis pas mal de clarifications, et une clarification un peu particulière, puisqu'en fait, ils amenaient Phil Spencer, Matt Booty et Sarah Bond des bonnes nouvelles pour les fans les plus fervents et les plus ardents défenseurs de Xbox, mais ils le faisaient quand même avec des cernes de 8 pieds de long et une tête qui disait « En interne, c'est compliqué, on est encore en train d'essayer de trouver la bonne manière de communiquer, et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement vous donner les bases ». Donc dans les rumeurs, ça parlait de Hi-Fi Rush, hein, qui lui, c'est garanti maintenant, arrivera sur d'autres plateformes, jusqu'à, et si Gears un jour arrivait sur PS5, et si Starfield, et si Indiana Jones, etc. Qui n'étaient pas, encore une fois, pas, vraiment pas des, des rumeurs qui sortent d'un compte Twitter lambda, etc. C'est souvent quand même des journalistes ou des créateurs de contenu qui ont été très très proches de la maison Xbox, et souvent d'ailleurs approchés par Xbox pour faire partie un peu de la famille. Donc il y avait effectivement il y avait un truc à gérer, il y avait un truc à adresser, comme disent les Américains. Et donc, c'est passé par, eh bien, écoutez, on commence directement ces 20 minutes de blabla en vous disant que, oui, c'est vrai, 4 jeux vont arriver sur des plateformes consoles concurrentes dans les temps à venir, dans un calendrier qui nous appartient, mais on ne vous donnera pas les noms.
Ah, d'accord.
Voilà, on ne vous donnera pas les noms, mais on va quand même vous les décrire et vous laisser un petit peu deviner. En gros, entre ça, entre les, voilà, les différentes descriptions qui ont été données et puis quelques interviews qui ont été données aussi par Spencer dans la presse, on comprend qu'il s'agira de Hi-Fi Rush, bien sûr, de Sea of Thieves également, probablement également de Grounded, un autre jeu service de chez Microsoft, un jeu Obsidian, et puis Pentiment, petit jeu aussi Obsidian, solo celui-ci. Des jeux qui, en gros, auraient été identifiés comme étant de bons clients pour faire, pour créer des exceptions. Donc pour l'instant, on ne parle pas d'une grande offensive, on parle d'exceptions, comme peut l'être Minecraft, par exemple, qui est une exception possédée par Microsoft et pourtant disponible sur, sur PS5. Et de là, ensuite, on est parti sur une grande séance de « on rassure », on ne peut pas parler maintenant, en gros, il est trop tôt, on a encore beaucoup trop de choses à gérer avec les partenaires. Mais il faut absolument que l'incendie soit calmé. Donc, on le dit, dans ces quatre jeux, non, Starfield ne fait pas partie de ces quatre jeux. Non, le futur Indiana Jones ne fait pas partie de ces quatre jeux. Gears, il n'en a même pas parlé tellement, à mon avis, c'est pas du tout le moment. Et puis ensuite, c'est les éléments de langage et rappeler quelques bases. Le Game Pass, on ne va pas essayer de l'amener sur Switch ou sur PlayStation. Le Game Pass, en gros, doit rester exclusif à l'écosystème Xbox. Les jeux First Party Microsoft sont, dans, sont et seront dans le Game Pass, ce qui est une manière de répondre aux gens qui disaient et si demain en fait les jeux Activision genre Call of Duty c'est dans le Game Pass mais pas dans tous les Game Pass par exemple dans le Ultimate voire dans un tout autre nouveau tiers d'abonnement les voilà, en fait, d'abord, il y a les sources qui sont un peu sûres et ensuite, il y a vraiment tout le theory crafting qui a été fait par les gens
après,
sur Internet. Et c'est ça aussi qu'il fallait un petit peu gérer dans cette communication. Les consoles Xbox, c'est pas terminé. On va continuer à faire des consoles de grande performance, histoire de dire, voilà, on va pas se mettre à faire des Switch ou ce genre de choses.
Wow. Voilà. On dit, c'est littéralement Mark Zuckerberg qui teste l'Apple Pro qui tacle la concurrence
non mais en gros c'était pour dire voilà il prévoit déjà de nouvelles consoles de nouvelles générations et puis histoire de donner une croquette aux gens qui se demandent mais où sont passés les 68,9 ou 7 milliards de dollars du rachat d'Activision, on commence à faire arriver les jeux Activision Blizzard, à commencer par Diablo 4 qui arrivera dans le Game Pass le 28 mars prochain.
Quelle excellente nouvelle.
Voilà, ben, si, vous avez, si vous attendiez encore avant de vous offrir Diablo 4. Et puis dans la foulée, des chiffres qu'il faudrait analyser, notamment des nouveaux chiffres du Game Pass, mais qui intègrent les chiffres de ce qui était anciennement le Xbox Live Gold. Et puis rendez-vous en juin. Alors, t'es en février, tu donnes rendez-vous en juin. Wow, c'est pas un peu...
Le gars prend des vacances, quoi.
C'est ça. Enfin, en gros, effectivement, il y a pas mal...
Il y a ça, et après, c'est se donner rendez-vous dans 10 ans, quoi. Enfin, c'est vraiment... On est très loin déjà.
Exactement. Mais rendez-vous en juin pour cette grande conférence du Nonne 3 ouais. qu'ils ont l'habitude de réussir, hein, qui est souvent leur grand moment, qu'ils aiment beaucoup. Et là, vous avez en gros vraiment le principal. Pour le reste, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait étudier. La manière dont ça a été géré, ce que la communication n'amène pas, quels incendies ne sont pas éteints avec cette communication. Mais pour ça, je me disais qu'on allait plutôt se donner rendez-vous mardi du côté de...
Ça viendra plus vite que juin.
Ouais, bah oui.
C'est un rendez-vous plus raisonnable, si je puis me permettre.
Exactement. Et donc,
évidemment, tu vas nous parler de ça
dans cette mardinale. On parlera de ça, puis on parlera de Sony aussi.
Bien sûr.
Puisque comme le disait un peu le comme disait Sylvain tout à l'heure, j'allais dire
le Sylvain. C'est vrai.
Comme le disait Sylvain.
Attention à l'appropriation culturelle. On n'était pas loin. Hein.
C'est vrai. Sylvain racontait tout à l'heure les chiffres Sony.
Ouais.
Et dans les chiffres Sony et dans le bilan de Sony, le président intérim de PlayStation, le dit. Dites donc, ce modèle AAA exclusif.
Il a été question aussi des exclusifs, ces gros jeux-là coûtent beaucoup,
ouais. Ça rapporte peut-être pas assez, et on comprend qu'il va falloir se rapprocher notamment de la distribution PC, ou rapprocher peut-être les distributions PC. Donc ça, c'est que des choses qu'on abordera en ramenant aussi tout ce qui va sortir en article et en interview d'ici mardi prochain, dans la mardinale.
Dans la mardinale, tout simplement.
Le gars fait sa promo, quoi.
Mais il a bien raison. Il a bien raison, et c'est même pas fini, parce que je crois que tu vas aussi nous parler un petit peu du studio derrière Disco Elysium à cette occasion.
Oui, parce que ça, on n'a pas pu le mettre dans le magnéto, mais le studio lituanien Zaom passerait par une nouvelle crise après avoir déjà annulé deux projets au cours des années 2022 et 2023. On parle de 25 personnes environ licenciées et de l'arrêt du développement de ce qui devait être une extension autonome pour Disco Elysium, après qu'ait été en fait annulé le projet de suite à Disco Elysium en 2022, ainsi qu'un autre projet dans une licence inédite de science-fiction en 2023.
D'accord.
Sachant que le rififi chez Zaom, c'est un peu constant. On va attendre parce qu'il y a pas mal de journalistes, notamment anglo-saxons, qui disent qu'eux ont encore des informations à apporter et qu'il y a des articles qui vont sortir aujourd'hui sur le sujet. Ouais. Donc mardi.
Pareil, débrief mardi.
Ouais.
J'allais faire j'allais utiliser la formule du rififi chez Zaho, mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied. On l'avait dit dans le magnéto, on va revenir un petit peu rapidement là sur le décès très malheureux de Yoshitaka Murayama, qui était donc qu'on connaît actuellement comme étant le fondateur, un des fondateurs de Rabbit & Bear, le studio qui a annoncé en 2020. Le développement de Eiyuden Chronicles, qui est un RPG que beaucoup attendent comme un successeur, ce qu'il est littéralement de Suikoden. Et donc voilà, petit hommage à cette personne qui était jeune, je crois qu'il avait 55 ans il y a quelques jours quand il nous a malheureusement quittés. C'est donc une personne qui est rentrée chez Konami, il s'est fait connaître chez Konami, cet homme-là, en 1992, suite à quoi il a été assez rapidement mis à la tête d'un projet de RPG qui allait devenir Suikoden. Et c'est là qu'on va peut-être provoquer quelques larmes d'émotion chez les gens de bon goût, j'ai envie de dire, parce que j'ai envie de moi aussi créer mon amour pour cette série, en particulier pour le deuxième épisode. Donc Murayama a été à la tête du développement des trois premiers épisodes, dont il a aussi largement contribué à écrire le scénario. C'est aussi l'occasion de rappeler, parce qu'on va beaucoup entendre dans ces jours-ci, le créateur de Suikoden, en parlant de Murayama.
T'as raison,
mais il ne faut pas oublier l'influence énorme qu'a eue Madame Junko Kawano, qui était avec lui, avec Murayama, à la base de ces jeux-là, qui sont donc des RPG cultes de Konami et de la PlayStation, des RPG qui s'inspirent dans les grandes lignes d'un roman chinois dont il sera peut-être question un peu plus tard dans cette émission, qui s'appelle Au bord de l'eau, et dont le principe est de réunir 108 brigands, 108 bandits, qui se traduisent par autant de personnages, pas toujours jouables, mais quasiment dans le jeu. Et voilà, c'est une série qui est magnifique, notamment dans ses trois premiers épisodes. Le quatrième a été un peu plus décrié, un peu plus compliqué. C'est d'ailleurs juste avant la sortie du troisième épisode que Murayama a quitté Konami, alors qu'il avait travaillé dessus, pour quelques années après, donc finalement monter Rabbit & Bear et présenter Eiyuden Chronicles, dont il ne va pas pouvoir assister à la sortie, et c'est tragique.
Ouais, effectivement, c'est très triste. Ça a été un véritable. Enfin, je veux dire, on a vu des visages vraiment s'illuminer à l'annonce de Eiyuden Chronicle.
Ouais, le mien, hein, si t'avais vu le mien à cette époque-là, t'aurais dit oh, quel bébou.
Ouais, orphelin d'une série, hein, j'ai l'impression.
Oui, Suikoden, ça a été une séparation longue en fait et douloureuse parce qu'il y a eu des petits épisodes qui sont venus après Tearcry sur DS, tout ça, et puis des rumeurs de ah, on pourrait ressortir des trucs et tout, et puis des rumeurs après on se dit attends, mais est-ce que vraiment on a envie que le Konami actuel remette le nez dans Suikoden?
Ouais,
genre de séparation pas très nette, tu vois, un peu dur à encaisser, mais voilà, Eiyuden Chronicles vient raviver cette flamme. Et pendant ce temps-là, Konami, moi qui a toujours un peu le nez, se dit bah, si on sortirait pas des remakes, enfin des remasters des deux premiers épisodes, tout ça arrive cette année, prochainement là. Voilà, on remercie Monsieur Murayama pour tout le beau boulot qu'il a fait et les jolis jeux qu'il nous a apportés. Peut-être un Dis-moi Weeb spécial, un Dis-moi Weeb hommage, même si c'est un peu c'est un peu fou de dire ça. Je pense qu'il s'en fout, Monsieur Murayama, là où il est, le pauvre.
Mais pour les gens qui voudraient Weeb, que.
Mais ce sera l'occasion de faire découvrir un petit peu Suikoden 2. Il s'agira du 2 parce que c'est vraiment mon épisode préféré. C'est celui par lequel il est bon de découvrir la série, je pense. Et voilà, ce sera prochainement.
Ce sera pour qui?
Ce sera peut-être quelqu'un qui n'est même pas dans l'équipe.
Oh.
Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qu'on a déjà vu sur Origami, qui est dans l'entourage, qui serait peut-être capable d'être violent envers moi si je parle de Suikoden 2 sans qu'il soit dans le coin.
Ça y est, je crois que je vois une silhouette
se dessiner. Tu vois
peut-être
une silhouette se dessiner.
Ouais.
Voilà, bon, il en sera question bientôt. Encore une fois, merci pour tout, Monsieur Murayama. Nous, on va parler de jeux vidéo et on va commencer par Skull and Bones. On land, we were nothing. Outcasts, oppressed by the fat cats and rich pigs. So we chased our dreams. On the lawless seas. Little did they know. Skull and Bones, donc un jeu qui sort aujourd'hui même, si je ne me trompe pas. Après quelques bêtas qui étaient ouvertes, hein, il me semble qu'elles étaient accessibles, mais la sortie officielle se fait aujourd'hui. C'est donc le dernier jeu d'Ubisoft qui s'inspire dans les grandes lignes, on le sait, enfin qui est un héritier dans les grandes lignes de Assassin's Creed 3 et surtout Black Flag, qui avait inauguré chez Ubisoft ce système de bataille navale. Mm-hmm. On va en parler un petit peu aujourd'hui. C'est un jeu qui a eu un développement compliqué. Il a été annoncé en 2017, donc on est sur 6 ans et demi de développement officiel en tous les cas.
Officiel,
hein, voilà, c'est ça.
Sachant qu'en vérité, on est plus sur un développement de 10 ans,
ouais.
Dont l'équipe de développement actuelle ne peut plus trop effectivement confirmer que ça aurait commencé comme un DLC de Black Flag, mm-hmm. ou comme une extension de Black Flag, ou comme un Black Flag Infinite, pendant,
ouais.
C'est un nom qui
a été
brandi pendant un temps.
Black Flag, c'était il y a 10 ans, du coup, c'est 2013.
Black Flag, c'était 2013.
C'était 2013. Donc Ubisoft Singapour, qui sont donc vraiment les spécialistes de l'aspect maritime, mm-hmm. Chez Ubisoft, et de toutes les modélisations, notamment rendues d'eau, rendues de flottaison, tout ce qui était nécessaire, en fait, hein, pour réussir les combats maritimes de Assassin's Creed Black Flag,
ouais.
Et un développement qui est passé par à peu près tous les affres possibles de ce qu'on appelle l'enfer du développement,
oui.
Donc de problèmes de direction, beaucoup de turnover aussi, donc des équipes qui changent beaucoup, parce que tu m'étonnes que tu veux pas un trou de 10 ans dans ton
non.
CV, en vérité. Et des
reports, hein, même
des reports très
reprises.
Nombreux,
ouais.
Et un jeu qui s'est cherché, qui a d'abord voulu être un petit jeu
okay.
de duel multijoueur entre bateaux dans des arènes, mm-hmm. Avec des murs invisibles, et puis ensuite il a fallu devenir plus gros à mesure que le temps passait. Et puis un reboot carrément en 2019.
Un reboot du développement dont on
peine en fait à comprendre effectivement quel était l'objectif, parce que à l'époque on nous avait montré un jeu, mm-hmm. Qui devait avoir plein de pans de gameplay différents, et on retrouve là maintenant, sorti dans une forme, ça va être bizarre dans un jeu alors que ça fait 10 ans, dans une forme de précipitation,
mmh.
on récupère des morceaux d'un reboot qui semble finalement pas si loin de ce que peut-être que le jeu a été à un moment aux alentours de peut-être 2017-2018. Mmh. Donc on est sur un monde ouvert, okay. multijoueur.
Alors je voulais me tourner vers Héloïse un petit peu pour nous présenter un peu le jeu dans ses, dans ses mécaniques. Qu'est-ce que c'est en gros Skull and Bones pour des gens comme moi qui savent à peine ce que c'est honnêtement Skull and Bones. C'est ce genre de truc dont j'ai entendu parler depuis toutes ces années sans savoir précisément de quoi il est question.
Bah, Skull and Bones c'est un peu une bête bizarre. Genre quand, moi j'ai joué à la bêta ouverte pendant quelques heures et en fait moi grande fan de Black Flag, j'ai adoré Black Flag, je les aimais trop bien en multi.
On dit Black Flag depuis le début.
Assassin's Creed Black
Flag. Oui, c'est ça. Il ne me semblait pas nécessaire de le préciser, mais au cas où, Assassin's Creed Black Flag.
Ouais. Et du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu Skull and Bones. Oh, qu'est-ce qui se passe là ? C'est un jeu qui te met dans la peau d'un pirate. Jusque-là, ça va, dans l'océan Indien. Multijoueur, comme le disait Gotoz, et où tu vas avoir pour mission juste de suivre des missions en améliorant ton bateau, en améliorant ton équipage, ta déco, un tas de cosmétiques, etc.
C'est forcément multijoueur ?
Oui, c'est forcément
multijoueur. Il n'y a pas de campagne solo ou de trucs comme ça ?
En soi, tu as une campagne solo, mais qui s'ancre en fait dans juste un
dans
monde...
Dans l'environnement multi.
Dans un monde multi. Et donc, voilà.
Et tu parles de mission, tout ça. Est-ce que ça implique un monde quand même ouvert que tu vas explorer librement ou est-ce que tu es balancé de mission en mission ?
Monde ouvert, ça dépend. En fait, c'est comme si on était des poissons un peu, tu vois, dans Skull and Bones. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te balader sur mer comme tu le souhaites.
Ouais.
Et il va y avoir quelques endroits où des zones sociales, en fait, où tu vas pouvoir accoster et voir des marchands, voir... peu importe en fait. Et ça, c'était, je pense, moi de mon côté, c'était la plus grande surprise, pas forcément très positive justement par rapport à tout ça. Enfin, Gauthier, je pense que toi, tu peux en parler.
C'est simplement que ce n'est pas un monde ouvert de piraterie. Tu n'incarnes pas un pirate, tu incarnes un bateau.
Exactement. D'accord.
Et ça, alors ça, je ne vais pas dire qu'ils ont trompé leur monde avec ça, attention, hein, parce que ça fait un bout de temps maintenant. Ils ont largement, la dernière version qu'on voit là, elle a été largement montrée dans différentes bêtas, etc.
Ouais.
Mais pour un jeu, effectivement, qui te promet la grande aventure, c'est-à-dire que tu n'as pas de gameplay combat quand tu es à pied. Tu ne tires jamais l'épée, tu n'utilises jamais un pistolet.
Sans parler d'abordage éventuel ou même en cas d'abordage
les abordages
pas...
c'est des cutscenes.
Ah d'accord, ok.
Voilà.
Donc tu es vraiment, c'est vraiment un gameplay, c'est du bateau uniquement.
Il faut vraiment se dire que tu es un bateau et tout ce qui se passera, tout ce qui te fera quitter,
c'est ma pire séance d'hypnose pour l'instant.
Tu es un bateau.
Tu es un bateau.
Tout ce qui te fera quitter ta place à la barre du bateau sera non interactif.
D'accord.
Par exemple, il y a une des premières missions que tu vas faire où on te demande d'aller chercher des acacias. Et en fait, tu vois que tu en as sur l'île où t'as accosté. Et en fait, tu te dis, j'y vais à pied. Tout est fermé. Tu dois prendre ton bateau, partir et faire du coup un minigame, un jeu de précision sur R2 quand t'es à proximité de la côte, en fait. Et c'est assez emblématique, en fait, de Skull and Bones en soi.
Ça veut dire que tu ne descends pas de ton bateau, tu ne visites pas ton bateau, tu ne répares pas toi-même ton bateau quand tu es en bateau, parce que tu fais quand même beaucoup.
Ouais.
Tu as un menu radial qui va te permettre de donner à manger à ton équipage pour avoir des bonus, réparer la coque.
Regarde tous ces mecs en guenilles là qui courent.
Oui, mais là, c'est
le port.
Ça, ce sont ces petites zones
ces
sociales.
Ces petits endroits où quand même on peut se balader un peu à pied.
Tu te promènes pour aller prendre des missions, pour gérer plein de menus. Il y a, il y a un nombre incalculable de menus dans le jeu pour les parties cosmétiques, comme pour équiper ton bateau, comme pour acheter de nouvelles classes de bateaux.
Okay.
Puisque, à la différence, et on va le dire une bonne fois pour toutes, d'un Sea of Thieves, parce qu'on est obligé d'en parler, c'est un jeu qui ne va pas te dire « Écoute, en fait, j'ai plein de choses à te proposer, à faire. » Et la bonne nouvelle, c'est que c'est déplafonné. Mais la condition, c'est qu'il n'y a pas de niveau de personnage, qu'il y a un seul type de canon, un seul type d'épée, que tout le monde fait les mêmes dommages. Qu'en gros, ensuite, tu as juste plusieurs types de bateaux et c'est ce à combien tu veux te mettre dessus.
C'est ça.
Eh bien, lui va te dire « Bon, écoute, j'ai pas... énormément de choses à te proposer, c'est des combats de bateaux et c'est tout, mais je vais te plafonner tout ça avec plein de jauges à remplir pour avoir un meilleur niveau d'infamie. Donc
d'accord.
On est vraiment, on est sur un truc qui même dans l'Ubisoft moderne et hyper rétro en fait.
Bah alors c'est le truc qui me vient moi. Encore une fois, j'arrive là-dessus, je suis très ingénu. Hein, j'ai pas vraiment suivi. C'est pas un jeu qui m'intéressait plus que ça, tout ça. Il y a quelque chose qui transparaît un peu de ce développement long et compliqué, tout ça dont tu as parlé au début. C'est cette peur d'avoir un jeu qui sort aujourd'hui. Enfin, c'est d'avoir en 2024 un jeu de 2017 qui nous parvient. Et ouais. J'ai l'impression que d'après ce que tu dis, c'est un peu le cas. Toi, Héloïse, comment tu le sens ça ? C'est un jeu qui te semble pertinent aujourd'hui ou tu vois des mécaniques très datées là-dedans ?
Ouais, non, c'est daté et surtout, c'est pas tranché en fait. Comme ouais. On en parlait, il y a plein de choses qui sont faisables, mais en fait, on va jamais vraiment au bout de tel ou tel truc. C'est du Sea of Thieves, c'est multi, etc. On pousse vraiment au fait de pouvoir faire des batailles navales à plusieurs, etc. Tu vois, tu vas aider le pote que tu croises à ce ouais. moment-là et tout, mais en même temps, tu descends peu sur Terre, tu vas pas chercher des trésors, ou alors il y a ouais. une croix qui est marquée dessus, tu vois.
Ouais. Et puis, en fait, le trésor, il est dans un village.
Voilà.
En fait. C'est-à-dire qu'il y a pas de vie sauvage.
Tu peux pas faire d'accordéon et tout, enfin... Ouais.
Après, je pense que il y a quelque chose, on le fait là, hein, parce que c'est naturel. Je veux dire, il y a Sea of Thieves. Oui, voilà, ouais. c'est que je pense que ce jeu veut faire autre chose
ouais,
et que
oui.
quelque part, il pourrait être injuste de lui dire, bah tu fais pas du Sea of Thieves. C'est ouais. pas ce qu'on veut faire. Oui. C'est juste pour clarifier ça. C'est pas ce qu'on veut faire, mais c'est que c'est impossible aujourd'hui, je pense.
Mais t'as un jeu
de
multi
de ne pas faire cette comparaison.
C'est ça. Ouais, mais surtout, t'as un jeu multi de pirates. Maintenant, t'as des promesses qui sont un peu derrière aussi, comme ouais. ça. Tu vois, juste le fait de pouvoir de sortir un sabre,
flibuster
par
un
exemple,
petit peu.
Ou juste ouais. aborder, c'est quelque chose ouais, qui ouais. me paraît quand même assez logique.
Ouais. Et qui était dans Black Flag.
Voilà, exactement.
Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que quelque part, il y a la comparaison avec Sea of Thieves qui est inévitable. On rappelle que le jeu a été annoncé avant la sortie de Sea of Thieves.
Ah oui, ça a dû être une souffrance d'ailleurs.
Et rentrer en production. Mmh.
Ça a dû être une souffrance de voir arriver Sea of Thieves en 2017, ouais. s'emparer d'une communauté, réussir quelque chose de fort avec genre aucune jauge,
ouais.
à part effectivement des jauges de confiance vis-à-vis des marchands, etc. Mais pas rien de plafonné.
Une approche très différente.
Voilà.
C'est ça,
en une heure, ouais. Tu peux vivre la plus grande bataille de ta vie.
Ouais.
Simplement, ton bateau ne sera pas joli. C'est
ouais.
tout.
Ouais, ok. Et donc, tu vois, il y a cette comparaison qui est dure à éviter. Une autre comparaison qui me semble difficilement évitable, c'est celle avec Black Flag. Qu'est-ce que proposait ouais. Le jeu dont semble être issu le Jupiter de la cuisse duquel est issu ce jeu-là ? Waouh, je m'en
non,
suis
mais,
sorti.
Ouais, en fait, je pense que Black Flag, ça raconte une histoire parce que c'est un Assassin's Creed, etc. L'histoire elle s'écrit avec les joueurs parce que t'as la possibilité en fait de vivre des choses assez folles, etc. Là t'as ni ce côté narratif là, enfin tu l'as mais il est quand même assez, voilà, assez restreint, ni du coup la possibilité d'incarner véritablement un pirate et donc de pouvoir créer des histoires par rapport à ça à travers un avatar et tout. Et du coup je me pose la question justement de comment est-ce qu'on va réussir à se raconter une histoire sur le long terme,
ouais.
est-ce que c'est le but, est-ce que, enfin je sais pas.
On voit les bases d'un jeu qui, je vais dire le terme, hein, d'un jeu service qui a pour ambition de s'installer longtemps. Et peut-être d'évoluer, ouais.
De toute façon, ça, c'est connu en interne chez Ubisoft. Les pontes, et notamment Yves Guillemot, rêvent Sea of Thieves déjà en rédemption à la Rainbow Six Siege.
D'accord, ok.
C'est-à-dire que oui, non, on ne va pas lâcher l'affaire. Non, Ubisoft Singapour et les autres équipes des autres studios qui travaillent sur le développement ne vont pas être démobilisés. Le but, ça va être d'envoyer un max de saisons et d'essayer effectivement de raconter une belle histoire d'un comeback, peut-être en transformant beaucoup de choses, mais je pense que le jeu est vraiment enfermé dans énormément de choses. J'ai dit Sea of Thieves à la place
Le fameux mini-jeu là pour
récupérer. Ça devait arriver. Mais oui. C'est un jeu service.
Ouais, d'accord.
C'est un jeu service.
Et alors là, vu que tu as dit Sea of Thieves, on reste un peu sur Sea of Thieves. Il ne faut pas oublier non plus que Sea of Thieves a quand même... On lui a laissé pas mal d'années avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Donc bon, c'est toujours le cas. C'est sûrement terrible en interne pour les équipes qui ont bossé dessus et tout, de lancer le jeu avec pour but d'en faire une rédemption. C'est-à-dire de dire non, mais le but de ce jeu, c'est de se rattraper jour où il sort. C'est compliqué. Mais il n'est pas exclu que ça puisse être le cas, cela dit.
Alors, il n'est pas exclu que ça puisse être le cas, mais tout de même, on sent un enfermement dans le jeu qui, à mon avis, est plus le résultat de limites techniques.
Okay.
Alors, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai plus l'impression effectivement que quand tu te retrouves à couper du bois ou à piller un truc avec un mini-jeu flash, comme on peut le voir à l'écran là, c'est qu'il y a des choses que le jeu ne pourra pas faire. Il faudrait en fait remplacer son socle technique, j'ai l'impression, pour réussir ça.
Mais de toute façon, j'ai l'impression, enfin, vous me dites, hein, c'est vous qui avez joué, mais d'après ce que vous me dites, j'ai l'impression que s'il s'agit de demander à ce jeu-là de t'offrir à terme de l'exploration vraiment sur Terre, des combats et tout ça, je pense que c'est même pas la peine d'espérer, c'est pas ce pour quoi le jeu a été prévu, manifestement.
En revanche, même si, bon, moi je trouve que le pilotage est. Enfin, le pilotage, j'appelle ça, c'est du bolidage.
Ouais,
c'est vraiment du bolidage, c'est-à-dire que tu as une jauge de sprint. Ouais. Certes, tu gères un peu ta position par rapport au vent, mais tu gères pas l'orientation des voiles, ce genre de choses.
Ah bon? tu me vois surpris là.
Tu te mets dos au vent.
Ok.
Ou si jamais tu es contre le vent, tu utilises ta jauge de sprint.
C'est ça. Et tu accélères et tu décélères en fonction.
Ok. Ah oui, non, je pensais qu'il y avait quand même un truc un peu plus poussé. Semble être ce qui peut faire l'originalité d'un jeu comme ça.
Malheureusement, c'est trop limité. Mais en revanche, c'est compensé par plein d'armes différentes.
D'accord.
Tu as tes armes incendiaires, tes armes qui vont déclencher de l'inondation.
Et tu choisis où est-ce que tu vas les mettre et tout sur ton sur ton navire et du coup tu vas avoir différentes manières du coup d'aborder les combats en fonction de où tu te trouves par rapport à ton ennemi.
Ok. Donc, et donc dans l'ensemble là, pour parler vraiment purement du gameplay de combat. Il vous paraît satisfaisant à l'heure actuelle ?
Bah moi je pense que j'ai pas assez joué pour voir tout le potentiel que ça peut donner, donc parce que je venais d'avoir deux ou trois canons autres, tu vois, donc je sais pas.
Toi Gauthier, qu'est-ce que t'en penses ?
Le potentiel ?
Le gameplay pur des combats, tu vois quand je...
Ah le gameplay pur des combats, en fait ce qui va être intéressant c'est les différents types de bateaux.
Ouais.
Parce que je le disais tout à l'heure, tu ne peux pas orienter tes voiles, mais tous les bateaux n'ont pas les voiles orientées de la même manière. Donc ça va être assez intéressant quand même, effectivement, parce que ça va changer un petit peu ton gameplay. Tu vas te placer différemment vis-à-vis du vent si tu veux récupérer un maximum de vitesse, etc. Moi, je trouve qu'en fait, c'est une base qui est intéressante et qui pourrait, en fait, pour un jeu, on va dire, à podcast. Ce qui est l'inverse de Sea of Thieves pour moi. C'est-à-dire que pour moi, Sea of Thieves, tu profites du sensoriel, du sound design, etc.
Un jeu à podcast dans le sens où tu y joues en écoutant des podcasts. D'accord.
Tu vois, parce qu'en plus, c'est un jeu qui malheureusement a un vrai problème de sound design. Il est extrêmement gueulard. Tu te fais crier dessus tout le temps dans ce jeu.
Et à j'aime bien quand il lance des musiques, genre quand il se passe rien. Tu sais, quand t'arrives au port, il commence à chanter.
Effectivement, t'as jeté l'ancre et c'est là qu'ils se mettent à chanter. Et tu vas dans le menu radial en disant non, mais taisez-vous, là, l'ambiance, il n'y est pas du tout.
Ah, l'équipage, ton équipage. Oui, c'est pas les gens du port qui t'accueillent.
Mais
c'est la chanson du port, mais vous avez jamais été pirate.
mais en fait, effectivement, il a ce truc là. Allez, on remplit des jauges avec des. Quelqu'un disait sur internet l'autre jour que les bateaux se contrôlent un petit peu comme des micro-machines, et je suis assez d'accord avec ça. Okay. Il y a un petit peu ce truc là. Et tu peux développer plein de choses. Là, par exemple, parfois, tu as des espèces de grandes vagues. On te prévient, tu es en plein combat scripté contre un gros boss. Et on dit, attention, là, il y a une grosse vague. Il va falloir que tu tournes ton bateau de la bonne manière.
La vague scélérate.
Voilà, exactement.
J'adore ce terme.
La vague scélérate. et il faut que tu tournes vite pour ne pas, effectivement, prendre des gros dommages.
D'accord.
Ce genre de choses. Mais il y a quand même une sensation globale de... Je crois que je fais toujours un peu la même chose et je crois que à la stratégie se substitue en fait le niveau de puissance du bateau en face de moi.
Ouais, mais ça c'est le problème, je trouve régulier de ces jeux qui saupoudrent leur proposition générale d'une couche de RPG assez light, c'est que tu te retrouves en fait à question de niveau ou ramener des potes, ça supprime d'autres enjeux quoi du jeu. Je me souviens que c'est une critique qui avait été faite à Assassin's Creed d'ailleurs pour les mêmes raisons, quand tu disais où est la discrétion quand tu peux pas buter ce mec là parce qu'il est de niveau 50. Bon, c'est toujours un risque de mettre ces surcouches là,
et en gros là dedans tu as pour conclure quelque part en ce qui me concerne en tout cas. En gros, tu n'as pas l'impression là de jouer vraiment à Skull and Bones. Tu as l'impression de jouer à la version détricotée d'un Skull and Bones de 2019. Donc tu récupères des morceaux et parfois c'est presque un peu un musée. Il y a des choix multiples dans les dialogues avec les PNJ et en fait c'est que des faux choix. Et en fait ils sont juste dans les dialogues importants du scénario parce que vraiment c'est de la narration un peu comme The Division, donc en gros tu vas dans le bureau d'un gars qui va te parler de gens que tu vas ensuite jamais voir parce qu'en fait tu vas juste voir leur bateau en disant lui c'est un vrai enfoiré, t'es là genre ah ouais on va le tuer, enfin je le verrai jamais mais d'accord. Et il y a plein de moments où en fait tu dis pourquoi ça c'est dans le jeu.
Ouais.
Bah c'est probablement dans le jeu, effectivement, ils ont parlé sur le Discord d'Origami l'autre jour parce que ça coûterait trop cher de l'enlever.
Oui. Oui, c'est des restes de c'est des marques des stigmates du développement compliqué,
voilà,
dont tu parlais, et
voilà,
parfois il vaut mieux effectivement.
Donc il y a un côté un peu Frankenstein là-dedans, ouais. et pour être un peu plus personnel sur mon ressenti vis-à-vis du jeu.
Ouais.
Il est également moins, alors il a parfois de très beaux trucs météorologiques qui marchent bien, il est pas honteux,
ouais,
mais très honnêtement, pour Singapour qui à la base, voilà, poussait des choses très très fortes et très nouvelles en matière de modélisation du ressenti sur les océans, j'avoue que moi je trouve que c'est un jeu triste en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que il s'empare pas de son, et encore une fois là je vais devoir dire Sea of Thieves,
ouais,
mais il s'empare pas en fait de cette fantaisie. Il te fait pas regarder dans le ciel pour voir dans quel sens va le vent. Mm. Il te permet pas de juste aller regarder une île du haut d'une colline. Il te dit juste, écoute, ma pragmatique, elle est ainsi faite, et c'est des jauges.
Ouais.
Et en fait, c'est toi, ton bateau et des jauges, ce qui pas, ça t'empêche pas de te raconter une histoire.
Oui, oui, mais je pense qu'il y a là-dedans, il y a les restes de ce que tu disais au début, c'est ça a été un jeu qui manifestement a été pensé d'abord comme une espèce de plus petit jeu qui serait un jeu de bataille navale tout simplement en fait, et dont dont même nous le public dans toutes ces années là avons peut-être commencé à imaginer autre chose et tout ça et se dire que
et puis il y a eu et un reboot à un moment,
voilà c'est ça. Donc,
mais je trouve qu'il est porteur d'une espèce de tristesse un petit peu quand tu connais, quand tu sais les difficultés de Singapour, quand tu vois l'ouverture du jeu, ils se sont dit, c'est bien à la base, oui, hein, ils se sont dit on va laisser le mot Ubisoft et va défiler devant le mot Ubisoft tous les studios.
Ah oui, qui ont aidé dessus, ouais.
Et en fait c'est ultra long, et en fait tu crois que c'est une bonne idée, mais ce que ça dit c'est grande détresse,
ouais, bien sûr,
quand tu vois Singapour, Berlin, Montréal, machin, Paris, truc et machin, tu dis ouais en fait là effectivement tout
et
ce que vous dites,
et puis t'as eu l'intro du jeu juste avant aussi,
et puis l'intro est très, c'est probablement une des intros de jeu les plus ratées que j'ai vu depuis très très longtemps.
Ok, d'accord, donc
c'est compliqué comme sujet, j'allais dire Sea of Thieves encore.
Ah oui, terrible. Mais ce sera sur ce lapsus tristement révélateur, hein, je pense, qu'on va arrêter la discussion sur Skull and Bones pour cette fois-ci.
Oui,
il n'est pas exclu qu'on en reparle si d'aventure le jeu accueille de grosses nouveautés qui le changent en profondeur, et que Origami est encore là pour couvrir ce genre de ce genre de sujet à ce moment-là. Ce sera grâce à vous, en tous les cas, si Origami est toujours là, et grâce à votre soutien sur Patreon, évidemment. Donc, on va s'arrêter là pour Skull and Bones. Merci à tous les deux. Maintenant, on va parler d'un jeu qui a vraiment rien à voir avec tout ça, et c'est Sylvain qui va nous en parler. Je m'en fais déjà une joie.
Alors,
tu vas nous parler, mais oui, je
bonjour.
Te prends un petit peu au dépourvu, désolé.
Oui, un peu au dépourvu. Attends, je fais 2-3 clics, vas-y, présente-moi.
Vas-y, bien sûr, évidemment, on va parler de... Tu vas nous parler d'Arzet, The Jewel of Faramore, pardon, qui est un jeu développé, si je ne me trompe pas, par Seth Fulkerson, qui est un monsieur à qui on doit les remasters des deux Zelda sortis sur CDI il y a déjà bien des années, c'est-à-dire Faces of Evil et Wand of Gamelon, des jeux qui n'avaient pas forcément pour réputation d'être les meilleurs représentants de la série Zelda. Des jeux à même, et des jeux qui du coup ne sont pas dénués d'un certain charme que ce cher monsieur Fulkerson a voulu reproduire dans Arzet, c'est ça Sylvain ?
C'est exactement ce que tu viens de nous décrire. On part sur un jeu qui est... Alors, déjà, on est sur une respiration, là. On n'est pas là pour vous dire ce jeu, il est bien ou quoi. On est vraiment sur un jeu... J'ai envie de dire l'occasion fait le larron. On est là pour parler de ça parce que je trouve que le cas de ce jeu est hyper singulier. Comme tu dis, c'est un jeu hommage à une série qui... Enfin, à des jeux, en tout cas, qui ont quasiment 30 ans, qui ont même plus de 30 ans aujourd'hui. Les Zelda CDI, c'est un mec donc qui avait fait à l'époque des remasters de ces jeux CDI et qui les avait très bien fait. C'était sorti en 2020, ça avait commencé presque comme une blague.
Des remasters non officiels, hein, d'ailleurs.
Remasters non officiels,
précisé, mais pas officiels du tout.
Non, il a fait ça tout seul dans son coin. Le truc, c'est que bon, que tu te dises, ok, je vais prendre un jeu, je vais faire un remaster histoire d'apprendre un peu comment marche Game Maker ou des trucs comme ça, pourquoi pas. Le mec a fait son jeu. Là où je comprends plus, c'est qu'il en a fait deux en fait. À quel moment tu te dis pas peut-être qu'il faut pas en faire deux. Donc il a vraiment poussé la blague très très loin, et en faisant ça, en retapant tout ce qui marchait pas dans les jeux premiers, à savoir déjà la maniabilité, les Xbox, les Xbox.
Ah oh ouais.
Mais c'est vrai que les Xbox ne marchaient pas du tout à l'époque.
Non, les Xbox ne marchaient pas du tout à l'époque. Donc il a rendu ces jeux-là enfin jouables, et surtout le fait de pas y jouer avec une manette de CDI, parce qu'une manette de CDI c'est quand même doucement affreux. Attendez, je vous en montre une parce qu'ils en ont sorti pour le voilà. Une manette de CDI, ça ressemblait à ça. Et là pour la version version-là, ils se sont dit tiens, ça va être marrant. Vous allez voir, on va ressortir des manettes de CDI pour les gens qui veulent la collector. Donc déjà, le simple fait de jouer avec un vrai pad qui ressemblerait à ça, par exemple, c'est déjà autre chose.
Un pad Xbox comme par hasard. Hein. Ça commence à se voir.
C'est avec ça que je contrôle mes caméras, tellement low-tech.
Merci Phil.
C'est ça.
Tellement low-tech. Et alors attends, je vais te remettre le jeu. Ah, ça repart au début, c'est pas grave.
Bah oui. C'est d'une telle beauté.
Ouais. Et donc ce mec-là, en faisant ces deux jeux, il a vraiment appris une grammaire qui est vraiment, personne n'a fait ça à part lui. Il a une proposition qui n'existe pas. C'est-à-dire que là, on a des animations façon Animation Magic, le studio russe qui avait bossé à l'époque là-dessus, et sur Warcraft Adventure aussi qui avait été annulé. On a donc plein d'animations qui ne servent qu'une seule fois dans le jeu. On parle parfois de jeux qui ont des money shots, des machins, des trucs. Là, c'est vraiment ce jeu-là, il est ponctué d'un million de petites animations comme ça que t'es trop content de voir parce que tu les verras une seule fois, et à chaque fois elles ont un sens, j'ai envie de dire, de la mise en scène qui leur est propre. Aucun jeu ne fait ça comme ça, avec des persos qui se déplacent. Ça a été un jeu qui a été moultement raillé, hein, les Zelda CDI en tout cas, pour ce genre d'animation justement qu'on voit là.
Pardon, je t'interromps deux secondes, mais là autant c'est assez clair pour les gens qui nous regardent actuellement, mais pour toutes les personnes qui nous écouteraient
qui nous en podcast,
il faut préciser qu'il y a une esthétique très particulière, à la fois dans l'esthétique pure graphique et dans l'approche de l'animation. Ça fait penser presque à de l'animation sous Paint, presque, quelque part, dans son traitement.
C'est ce qu'on peut se dire, effectivement. Le premier adjectif qui vient généralement à l'esprit, c'est moche. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que tu sais que c'est des gens qui savent dessiner, qui ont voulu faire un truc moche.
Bien sûr.
C'est d'autant plus prenant dans cette version-là qu'ils n'ont pas les limitations qu'avait le CDI. Et là, tu as vraiment de très, très longues cinématiques parfois. C'est extrêmement généreux, bien plus que ne l'était le premier jeu. Et surtout, il a fait avec ce jeu-là un truc que je trouve essentiel et très important pour rendre ces jeux-là enfin jouables. C'est-à-dire que tout est devenu clair. Les persos qui te donnent des quêtes te donnent des objectifs qui sont clairs. Ils sont consignés dans ton inventaire pour que tu puisses poursuivre ta quête comme il se doit. Et rien que ça, en fait, ça permet de redécouvrir toute la grammaire de ces jeux qui ont été largement ratés à l'époque, mais sous un nouveau jour. Et en fait, ce jeu-là, il est trop bien. Premier degré, moi, je vous le dis. J'ai joué à ça. J'ai commencé à y jouer hier après-midi. J'y ai joué hier toute la soirée. Je pense que j'ai fait 50% du jeu. C'est le jeu qui me le dit en 4h30, 5h à peu près, sans aller chercher tous les bonus et les trucs comme ça. Donc déjà, en plus, la durée de vie a été augmentée. Il n'y a plus tous les systèmes de mort pénalisants et tout. Et on arrive sur un jeu qui a une proposition qu'aujourd'hui, qui n'a pas d'équivalent, quoi. Et ça, moi, juste ça, je trouve ça absolument délectable.
Ouais, je t'ai vu un petit peu y jouer hier, et ça a suffi à vraiment attiser ma curiosité, alors même que, comme je te le disais, j'ai pas de connexion, moi, à ces jeux de base, je les ai pas faits à l'époque et tout. Je trouve qu'il y a un côté très fascinant dans ce genre de projet. Je suis très content que tu nous en parles aujourd'hui. J'ai vu un petit truc en faisant des recherches tout à l'heure vite fait, c'est qu'apparemment, le développeur, enfin, on dit le développeur, il y a toute une équipe autour, mais le type à l'origine de l'idée du projet, Seth Fulkerson, donc encore une fois, il a fait appel à Jeffrey Rath et Bonnie Jean Wilbur en tant que comédien et comédienne de doublage sur ce jeu, et c'est des gens qui bossaient sur les premiers Zelda, sur les Zelda de l'époque. Et donc on peut même dire à propos de Bonnie Jean Wilbur et même Jeffrey Rath que c'est respectivement, je crois, les premières voix historiques de Link et de la princesse Zelda.
Certainement.
Mais donc c'est pas, je veux dire, le gars pousse l'hommage assez loin, et sur le site il y a un truc marrant qui est que tu vois tout le monde sait de quoi il est question, mais le site ne peut pas mentionner Zelda.
Oui, bien sûr.
Donc il dit, on a fait appel à des comédiens de doublage qui viennent des jeux dont s'inspire Arzet. Et tu sais, il y a toujours des espèces de périphrases comme ça pour être sûr de ne pas citer Zelda.
Le studio marrant. S'appelle CDI.
Oui, le studio effectivement s'appelle CDI, donc CDI, vous l'avez. Il y a le perso qui va aider Arzet dans sa quête qu'on voit juste en cutscene, hein. Mais c'est un rip-off de Link, plus vieux, avec une coupe moche et une grosse moustache.
Est-ce qu'il a une fin de loup?
Il y a pas une fin de loup, mais regarde, on voit un loup dès le début. Il y a plein de vraiment, c'est un jeu qui est blindé d'hommages. C'est un jeu qui est blindé de niveaux secrets qui sont tirés des Mario Hotel, donc sur ouais. CDI aussi. C'est vraiment, il y a écrit Patrick Elio partout sur ce jeu. je sais c'est pas vrai. Encore s'il y a joué, ce qu'il en a pensé, mais moi j'ai trouvé ça absolument formidable parce que une générosité pareille, tu normalement tu trouves ça que dans les jeux de fans quelque part, des gens ouais. qui ont rien à perdre, tu vois, ouais. qui se disent pas à la fin il y a un impératif commercial et tout. Et là c'est édité, c'est chez Limited Run, c'est traduit dans plein de langues, ça sort dans des versions physiques et tout, et tous ces partis pris qui vont à l'encontre de tout ce que te dit le jeu vidéo aujourd'hui, eux, ils l'assument pleinement. Et ouais. rien que ça, c'est incroyable.
Ouais, ouais. C'est je trouve ça, pareil, ultra important que ce genre de projet existe. Mmh. Nous en reparleras-tu peut-être un petit peu dans le prochain Super Vieux Jeu, Sylvain, vu qu'on est dans une émission d'autopromo aussi.
Une fois que j'aurai fini ce jeu ce week-end, évidemment, je pourrai en parler dans le Super Vieux Jeu que l'on enregistre la semaine prochaine.
Oh, incroyable teaser. Merci beaucoup. Voilà, petite respiration entre les deux gros jeux dont il est question aujourd'hui. On a parlé de Skull and Bones. Vous vous souvenez peut-être de... Pardon encore une fois pour la terreur que je vous inflige avec ce mignon petit fantôme. Il va être question maintenant de Banishers, Ghosts of New Eden.
Would you banish me?
I would. Then I'd kill you again for dying before I do. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Life to the living,
death to the dead.
Banishers, dont Ghosts of New Eden, le dernier né des studios de Dantnod. Dantnod qui, bon, alors évidemment, est un peu dans l'actualité pour d'autres raisons en ce moment. Tu en as parlé un petit peu dans ta dernière Mardinale. On va pas revenir là-dessus maintenant. On va quand même rappeler, tu l'avais fait aussi dans la Mardinale, mais oui. On va le faire ici, qu'on a une position un petit peu particulière vis-à-vis de ce studio, de Dantnod, vu qu'on y compte certains et certaines de nos amis, et que quelqu'un de l'équipe partage sa vie avec une personne qui travaille chez Dantnod. Pas dans les équipes de développement, cela dit.
Ouais.
On le précise bien comme ça au début, on l'a fait quand on parlait de Jusan et tout, on le précisera de manière de plus en plus resserrée à l'avenir, sûr. Mais c'est important pour nous de le préciser et sans pour autant faire l'impasse sur tous les jeux Dantnod.
Naturellement.
Voilà, on vous donne juste les éléments qui nous semblent nécessaires pour que vous ayez tout le contexte quand il s'agit pour nous de parler de jeux Dantnod. C'est un jeu, donc, Dantnod qui est fait par la team Vampire, si je
tout
ne me trompe
fait.
Pas. Et qui, donc, comme Vampire, se présente sous la forme d'un genre de jeu action-aventure à la troisième personne, c'est ça ?
Ouais, même avec quelques accents de RPG.
Ouais.
Bah, comme on en a dans beaucoup de jeux maintenant,
oui,
hein,
ouais.
évidemment. C'est un jeu donc, d'action-aventure qui s'éloigne déjà un peu de ce qu'a l'habitude de faire Dantnod, même s'il y a eu l'exception Vampire, et
oui.
où on incarne un couple,
ouais.
Red et Antea. Qui sont des bannisseurs. Donc les bannisseurs, c'est quoi ? Vous prenez The Witcher, mais c'est que les fantômes. Ils ont une spécialité,
ouais.
tu vois, très restreinte.
Ouais, des genres d'exorcistes quasiment, en fait.
Exactement.
Sur les
fantômes. C'est ça, ouais.
Si, mais t'enlèves le côté religieux, en fait. C'est vraiment très, très surnaturel. Et donc là, par exemple, il y a Antea. Antea, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé, Antea ? Dès le début du jeu, Antea meurt, en fait.
D'accord.
Et devient donc elle-même un spectre, un fantôme. Et on va devoir, avec Red et avec Antea, qui est maintenant pourvu de super pouvoirs de par sa nature de fantôme, juste revenir à l'endroit où elle est morte pour pouvoir tout simplement récupérer le corps et choisir... Et faire un choix sur ce qu'elle va devenir après.
D'accord.
Je sais pas si on peut commencer à parler. C'est le début du jeu en soi, mais.
Non, mais en l'occurrence, la team vampire est grosso modo les branches du même arbre quelque part, avec d'un côté du très narratif, travail sur les personnages, du gameplay d'enquête, puisque
très Witcher
ouais.
pour le
ouais,
coup.
D'accord.
Voilà. La vision du coup du Witcher est remplacée par le fait que Antea est un fantôme et va pouvoir voir des choses qui ne sont pas visibles.
Oui,
elle, nue, ouais. va pouvoir révéler des échos, c'est-à-dire en fait des souvenirs ou des moments qui se sont passés un peu avant en canalisant la force sur un objet, etc. Elle est très, très Witcher sur l'idée. Et dans l'aspect plus aventure et tout, il y a une référence qui est
qui semble évidente aussi,
ouais,
c'est ça,
ouais. C'est du God of War 100%. Ouais.
Ah oui, ah oui, ouais. c'est
dans l'approche des combats, tu veux dire, ou...
C'est plus dans l'approche
la structure de... générale,
ouais. D'accord. Et d'accord. Dans l'environnement, etc., où tu vas te retrouver parfois, je sais pas si t'as joué à God of War du coup.
J'ai joué au Ragnarok rapidement.
Ouais, je sais plus s'il y avait dans Ragnarok ça, mais tu sais, à un moment tu dois lancer ta hache sur des petits panneaux qui s'affichent,
d'accord,
mais
je
que
vois
pendant
la mécanique.
Temps, et ben t'as exactement la même chose là avec des lianes, en fait.
C'est un gameplay de shoot de foire au fil, en fait, plus ou moins.
Il y a un peu de ça.
En fait, de toute façon, Dontnod, ils l'assument. Ils l'ont dit, dit très très tôt. C'est une succession d'arènes et de couloirs avec énormément de narratifs et des personnages qui, par leur pouvoir, peuvent aussi effectivement accomplir plein de petits puzzles environnementaux.
Ouais,
parfois, avec ton mousquet, c'est trouver un trou, la bonne ligne de tir pour tirer sur une poutre qui ouvre une porte par l'autre côté. Enfin, c'est vraiment, tu vas retrouver tous ces petits trucs là, mais à dose un petit peu plus light aussi. Il y en a moins que dans God of War.
Je me rappelais pas de faire aussi autant d'allers-retours dans un God of War, par exemple.
Alors oui, c'est la question que j'allais poser, c'est que justement God of War, bon, il y a quelques allers-retours dans les deux, mais ce côté un petit peu qu'ils ont voulu forcer dans les God of War, qui était le côté plan séquence du jeu, donner une espèce d'élan général de bon, mais tu vas toujours un peu progresser. Est-ce que là on est sur ce genre aussi de couloir, ou est-ce que oui, t'as genre une ville et tu vas revenir faire des trucs autour dans une région pas très étendue finalement.
En fait, c'est une sorte d'exode, donc quoi qu'il arrive, tu avances.
Tu vas quand même avancer tout le temps.
Mais en même temps, il y a ce système de... comme dans Vampire, il y avait les quartiers avec les différents habitants de quartier, etc. Ouais. Et là, tu vas avoir trois zones comme ça qui vont se répondre parce qu'en fait, c'est les habitants de New Eden, donc la ville où on arrive, qui ont dû fuir à cette ville-là suite à des événements qui font qu'ils ne peuvent plus habiter à cet endroit-là.
D'accord.
Et donc, chacun a suivi un des chefs, un peu, que ce soit religieux, juste politique, militaire, pour s'établir à un endroit. Et donc, ces gens se connaissent, ces gens ont vécu cette malédiction-là et continuent à la vivre. Et donc, tu vas devoir faire des allers-retours de temps à autre, que ce soit pour, du coup... Les quêtes quêtes secondaires, les quêtes principales, mais les allers-retours, c'est aussi parce que, en fait, on te met directement face au fait que tu n'as pas... tu commences le jeu, tu as directement des endroits qui sont bloqués, en fait.
Ah oui,
et
d'accord.
Qui vont être débloqués au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Ouais. Et c'est le truc toujours pour allonger la longueur du jeu, évidemment. Ouais. Tu vas devoir retourner au début du jeu pour défaire ces lianes, pour pouvoir avancer et pour trouver du loot et de l'équipement.
D'accord.
Et ça, c'est vrai qu'il y avait un côté un peu frustrant. Parce que
c'est toujours pour aller choper des trucs annexes ou
C'est souvent pour aller choper des trucs annexes. En fait, t'es dans un couloir, on te dit tu pourrais aller là, mais en fait, t'iras plus tard. Et t'es déjà en train de te dire oh non, j'ai une flemme, en fait, d'y retourner.
Ouais, il a vraiment ce. Il a aussi un caractère fort, parce que c'est vrai qu'on dit God of War et ça inspire directement aussi un certain budget.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un jeu c'est un jeu.
Un quadruple A à mes yeux. Hein.
Ouais,
quadruple
A, on peut le dire.
Ouais.
Non, mais c'est un jeu qui, effectivement, va essayer de faire un maximum l'utilisation de tout ce qu'il a fabriqué, donc pas mal de réutilisation.
Investir assez restreint aussi.
Voilà.
Oui. Ce qui est une manière, plutôt futée d'aborder, d'aborder la création.
Le jeu vidéo est fait, d'utilisation, d'économie futée.
Sûr, évidemment.
Là, il y a peut-être des moments où, moi, par exemple, je sais que sur la première grande partie qui se passe dans une forêt, j'ai commencé à me dire, bon, bah là, en fait, je me rends même pas compte si j'ai fait demi-tour.
Oui, d'accord.
Voilà, parce que c'est pas des zones ouvertes, c'est des petites zones interconnectées.
Au milieu,
voilà, exactement. Ça rappelle aussi pas mal la structure des jeux Spiders, Gridfall par exemple.
Bien sûr, et puis souvent c'est des puzzles qui vont te permettre d'avancer, après tu vas débloquer des raccourcis pour quand tu vas y revenir, etc. Ouais. Mais tu parlais justement de cette forêt qui était un peu longue au début, et je trouve que c'est vraiment emblématique ce moment où tu te retrouves un peu confus en mode attends, j'avance vraiment ou pas, parce que en fait ce qui drive
pilote, vas-y, bien sûr.
Le jeu, c'est sa quête principale, qui est dont on la lance en fait au début, la quête principale évidemment, mais tu la rattrapes que après le premier gros boss qui arrive quand même au bout de la fin de la première zone.
C'est-à-dire que t'es happé par le jeu te fait passer de quête annexe en quête annexe, en quelque sorte, c'est ça
Non, en fait, c'est la quête principale, mais qui peine à démarrer.
Ah oui, d'accord,
en fait.
D'accord, tout
et
simplement. Ouais,
tu peines à comprendre les enjeux,
ouais,
à part le fait du coup de
de retrouver le corps, donc.
Exactement.
C'est ça,
ouais. Tu peines à...
micro et l'eau.
Ouais, tu peines en fait à suivre les enjeux de tout ça, à trouver les enjeux rapidement. Et une fois qu'on te dit, on te laisse penser qu'il y a. Ah, il y a plus qu'en fait que ce que je pensais. Là, tu trouves l'intérêt du jeu.
Ok, et ça repart un petit peu, ça retrouve une.
C'est ça,
un élan,
tu baisses la difficulté parce que putain, il y a
certains
ennemis.
J'étais pas là pour ça, ouais.
Je peux ?
Oui, vas-y.
Ouais, il y a un truc effectivement au milieu de ce jeu, c'est son système de combat. Et je dirais que ça passe ou ça casse.
D'accord.
Et que le meilleur effectivement conseil a été donné par Elo à l'instant. Effectivement, c'est l'un de ces jeux où je dirais. Go easy mode.
Si, voilà, ouais. Si on n'accroche pas autant.
C'est pas l'intérêt du jeu.
Ouais, d'accord.
Et pourtant, il y en a quand même, voilà, plus souvent qu'on ne le voudrait, je trouve,
des combats
dans ce jeu. Il y a une espèce de petite déconnexion parfois entre les contrôles du personnage principal, Red, et la manette. T'as l'impression parfois que les choses ne rentrent pas exactement comme elles devraient. Il y a des glissements aussi parfois. Et puis c'est un jeu qui est fait pour un ou deux ennemis, on va dire, dans son gameplay, qui est finalement un gameplay gâchette faible, gâchette forte, donc on sait un peu où on se dirige.
Là, attends, tu dis un ou deux types d'ennemis ou un ou deux ennemis en même temps par combat?
En même temps par contre.
Oui, d'accord.
Et c'est vraiment le genre de jeu qui va dire bah tu sais quoi, on va en mettre 5.
Oui, okay. ouais.
Et qui va essayer de compenser ça avec des marqueurs autour de ton personnage pour essayer de t'en sortir, etc. Mais la caméra est pas suffisamment sûre d'elle. Et puis le gameplay en fait est moins profond qu'attendu parce que tu
débloques certaines choses. Ah oui, c'est vrai. Bah, voilà, y a ça,
tu peux passer d'un personnage à l'autre durant.
C'est ce que j'allais demander. Oui, c'est ça.
Bah,
c'est
là,
que
on l'a vu.
Il y a j'imagine des mécaniques liées à ça, au fait que tu contrôles deux personnages en un.
Alors ça va être donc des mécaniques comme je disais au début pour l'enquête.
Ouais.
Déjà, tu vas passer de l'un à l'autre pour voir différentes choses.
Oui, pour activer la vision.
Et surtout, Antea va avoir des possibilités. Elle va débloquer des manifestations. Qui vont te permettre justement de débloquer les passages et tout ça. Et en combat, comment ça se passe? Et ben c'est là, on va pas le voir parce que je faisais plus que du fusil à ce moment-là du jeu.
Ouais. Mais... Tu as bien raison.
Et en fait, tu vas pouvoir passer de l'un à l'autre pour utiliser des différentes manières de combattre, mais finalement qui se rapprochent un peu. Au fur et à mesure du jeu, tu vas débloquer plus de manières de pouvoir combattre.
Des compétences, en gros, des nouveaux coups,
arbre,
des trucs comme ça. Ouais, okay.
T'as un arbre de compétences, t'en as même 4, qui sont soit des compétences que tu vas avoir, des points de compétences que tu vas avoir grâce à la montée de niveau de ton personnage, soit en résolvant en fait, les cas de hantise. Qui sont ces quêtes secondaires.
C'est genre de quêtes annexes.
C'est les enquêtes de vampires, un peu différentes. Quoi.
Okay.
Qui vont te donner des points d'essence. Et en fait, tu es obligé de jouer sur les deux. Parce que tu dois débloquer ce point de compétence pour pouvoir accéder à ce point de hantise, etc.
Oui, d'accord. Okay.
Enfin, ce point d'essence. Et donc, voilà. Et en fait, à la fin du jeu, on te propose un truc de fusion qui est quand même assez fort. Mais en vrai, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le jeu. Vraiment, le...
Les combats pas le point central a priori.
Je constate, pardon, je me permets, que effectivement ta capture PS5 là c'est pas non plus un modèle de, alors je vais pas dire fluidité, ça se trouve c'est une question de frame pacing ou j'en sais rien.
Mais j'avais quelques soucis sur PS5, après je sais pas si c'était la version presse ou pas, mais notamment quand j'ouvrais les menus de la map et tout,
des chargements, c'est ça tu faisais?
Oui, parce qu'il y a aussi quelques captures à moi qui sont des captures PC.
Ouais.
Donc,
En vrai, je pense que c'est peut-être moi de mon côté aussi. Hein.
Toi, et par contre, tant qu'on est sur ce chapitre-là, côté PC, côté performance, tout ça allait.
Non, vraiment, très honnêtement, rien à déplorer. Il y a eu des petits bugs avant la sortie, mais ça, on s'en fout. Je les ai vus corriger.
Ça dit peut-être pas grand-chose quand on parle du PC, quelle est ta machine, tout ça. En tous les cas, de ton côté, ça a été plutôt fluide de ce côté-là. Alors, moi, il y a une question que je me pose là quand vous parlez de ce jeu, vous me dites que les combats ne sont pas forcément le point fort du jeu, ce que j'entends très bien. J'ai l'impression que un des points forts possibles du jeu, j'ai même l'impression que c'est le point fort que veut vendre le jeu, c'est la relation entre ces deux personnages. Est-ce que de ce côté-là tu y trouves, toi, enfin tu y as trouvé, Loïse, parce que tu l'as terminé, toi, le jeu?
Moi j'ai terminé.
Et toi, tu y as joué un certain nombre d'heures
jusqu'au moment où je me suis dit je vais prendre mon temps, je suis pas pressé. Et Hello le feu en entier.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est très bien. Et donc oui, est-ce que de ce côté-là, la relation des personnages, tu y as trouvé un peu ce que...
Ouais, ouais, okay. Vraiment, au début, c'était assez mal parti parce que l'exposition du personnage d'Antea est pas forcément très empathique. Enfin, t'es pas forcément heureuse d'être avec elle, en fait, au début.
Ah oui, d'accord, ok.
Parce que c'est le personnage du bannisseur... très droit dans ses bottes, mm-hmm. mais c'est fait pour établir après le contraste avec le fait oui. qu'elle soit un fantôme, etc., ouais. et qu'on la bannisse pas immédiatement, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Mais il y a des très beaux moments d'échange entre les deux. En fait, à chaque fois que tu finis une quête, il y a un petit débrief, etc., et il y a notamment un moment, par là, où Red, donc le personnage masculin, le protagoniste mm-hmm. masculin, se pose la question peut-être aussi de l'honnêteté d'Antea, et est-ce que c'est vraiment Antea ou pas, parce qu'il y a des
cas. Ah
oui,
d'accord, ouais.
Et on monte dans cet ascenseur de cette mine, et silence complet pendant. C'est long, hein.
Ouais.
Et au début, j'étais en mode, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que juste, bon, on a oublié de qui c'est, quelque chose là. Ouais. Et juste, elle prend la parole en disant quelque chose comme tu penses à quoi ? Tu sais que je suis pas comme ça, ou ce genre de choses.
Ah, la Naughty ouais. Dog. Genre j'ai vraiment bien fait, bien amené, quoi.
J'ai bien aimé. Ouais. Mais il y a plein d'autres choses qui sont hyper bien écrites. Il y a quelques quêtes qui m'ont vraiment, vraiment happée par le... toute la malédiction là a aussi des effets sur le temps et la chronologie des faits, etc. Mmh. Et du coup, ça donne vraiment une possibilité dans comment tu vas pouvoir... présenter des cas de hantise. Tout le monde meurt, hein, dans cette histoire. Accrochez-vous. Ouais. C'est vraiment une malédiction assez ouais. forte où tu vas discuter avec un personnage, tu finis la quête principale, 5 minutes après, elle est morte. Tu vois, t'es en mode, bon, ok, mais c'est expliqué par les événements et tout. Mmh. Et surtout, ce que j'aime bien dans les jeux de cette façon de Dontnod, c'est que tes PNJ, ils sont là. Et ils ont une vraie histoire, et c'est pas juste, ça va pas juste te servir ouais. à faire, tu fais ta quête principale, tu les vois, ensuite tu fais leur quête secondaire, tu les vois, mais ensuite il y a encore une quête derrière pour savoir quels ont été les résultats aussi.
On voyait là, est-ce que ça traduisait ça? On voyait une sorte de menu où il y avait plein de personnages
ouais.
différents.
Ça c'est ton tableau d'enquête, en fait.
D'accord,
c'est
okay.
ton tableau d'enquête où tu vas avoir les intentions des uns, les intentions des autres,
okay.
et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, tu récupères des preuves, etc. Ouais. Après c'est assez, c'est présenté comme ça aurait pu être présenté sous la forme de paragraphe. Grave, juste avec tes choix.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça fait office quoi, de compendium, en gros, quoi, de rappel de,
exactement.
Des faits.
Même
tout ça,
si ouais. en soi, ça... Vu que tu dois faire des choix à la fin des quêtes, ouais. pour savoir si tu bannis, donc t'envoies plus ou moins dans les enfers le fantôme, si tu lui permets
t'as ce choix systématiquement
ouais.
D'accord, ok.
Si tu peux faire une ascension, lui offrir l'ascension, donc j'imagine aller dans un semblant de paradis,
ouais.
ou si tu peux blâmer aussi la personne qui est hantée, parce que des fois ça arrive.
Ah oui,
mais dans ce cas-là, il dead.
C'est, oui, parce que c'est vrai que c'est un truc, c'est pas installé. Mais rapidement, en fait, on te dit, bah, les banishers, ils gèrent les fantômes.
Ouais.
Et en fait, au moment où, effectivement, ça, on peut en parler parce que c'est au tout début, mais au moment où, effectivement, sa douce, vraiment l'amour de sa vie, est un fantôme qui l'accompagne et dont qu'il pourrait peut-être ramener à la vie grâce à de l'essence de vivant, mm-hmm. bah,
ah, oui,
soudain, tu peux
oui.
pomper de l'essence de vivant et tuer des gens.
Ouais.
Donc, c'est pas du tout un truc qui est posé au début. Ouais. Donc, ça va très vite, quoi.
Et en fait, ouais, ce qui était un peu étrange, et après, tu le comprends un peu mieux, parce que c'est pour juste insister sur le fait que tu peux faire ça ou tu peux faire ça, c'est que assez rapidement, du coup, tu peux lui faire une promesse. Est-ce que tu vas du coup faire en sorte qu'elle puisse ressusciter et donc sacrifier des colons? Certains le méritent, en vrai.
Ouais.
Il y en a où ça, ouais, ça t'est bon, genre,
ouais.
bute-le.
Ouais.
Mais donc
tu peux choisir de ressusciter, et ensuite, un peu plus tard dans l'histoire, tu peux faire une vraie promesse à ce moment-là.
Mm-hmm.
Et ça a des influences.
D'accord,
sur
donc ça fait partie de ces... Oui, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble à ces choix moraux, je mets ça entre grands guillemets, parce que c'est... Oui, mais c'est une approche très...
Bah, c'est Dontnod.
Un peu bourrine, oui, mais alors pas que... Là, j'allais comparer, tu vois, à ce que fait, par exemple, Dissonant, tu vois, c'est ces trucs de...
Ouais.
Quand t'as un choix récurrent, tu sais, est-ce que tu vas tuer ou ne pas tuer les PNJ, enfin tes cibles, et à la fin... Ça a une incidence sur quelle personne t'es devenue pendant cette aventure.
Exactement.
Quoi,
ouais, okay. Il y a trois formes différentes.
Ouais. Ok.
3-5. Ça dépend comment tu.
D'accord.
C'est vrai que les enquêtes, les différentes enquêtes que tu peux décider de faire ou pas. Parfois, le jeu te dit bon bah là, ça serait bien d'en faire une sur les deux. Je te propose ce genre de choses. choses, développe des trucs, plein de thématiques hyper intéressantes, et puis parfois il y en a certaines où effectivement le dilemme final est un peu créé de manière un peu artificielle, ouais. Je trouve, d'accord. Où tu te dis c'est vraiment genre, c'est clair, enfin moralement il y a un truc,
mais il y en a d'autres
on t'écrit au dernier moment, oui mais en fait lui il a un passé de voleur, d'accord, pour que t'aies quand même un doute, mais il y en a qui sont, et Elo me disait que ça, alors on a vu de plus en, ouais, plus des trucs bien écrits et qui te mettent vraiment face à toi-même, quoi. Mm. En revanche, juste, on a parlé tout à l'heure de gameplay enquête, il faut savoir que c'est vraiment le même gameplay enquête que quasiment tous les jeux d'enquête ésotériques depuis 2010, quoi.
Witcher,
c'est-à-dire qu'on est sur ce genre de truc.
Ah, puis c'est même, c'est vraiment genre, tu as 4 marqueurs lumineux,
tu vas les choper, d'accord, tu passes un puzzle pour pouvoir récupérer le dernier, et voilà, ouais, tu vois.
Bah, j'ai l'impression, et c'est malheureux, hein, que c'est pas la première fois que Dantnod se fait, qu'un jeu Dantnod se fait épingler un peu pour dire, ok, tout ce qui est côté narration, très bien, très bien, très bien. Mm. Le gameplay, ça convainc peut-être un peu moins. J'ai l'impression, pour autant, d'après ce que vous avez dit, que c'est pas désagréable, c'est pas rebutant.
En vrai, faut savoir où tu mets les pieds.
Ouais, c'est ça. Ouais. Okay,
je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues justement parce qu'ils s'attendaient à.
Faudrait peut-être pas y aller pour ça, mais tu peux faire avec ça, quoi, je veux dire.
Tout à fait.
Ouais.
Okay. Baisser la difficulté, comme c'est ça. Ouais,
ouais, c'est ça. Ouais, le ressenti. Pardon, c'est ce que tu
m'as demandé. Non, moi j'allais partir sur autre chose, donc vas-y.
L'aspect un peu RPG aussi. Oui, améliorer tes armes, avoir plein d'armes différentes.
Ce qui est désormais maintenant, effectivement, pour beaucoup de jeux, l'aspect RPG, c'est le crafting, etc. Ce que tu ramasses en cours de route, voilà.
Et le truc, c'est qu'en
RPG, même un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a des raretés, des trucs comme ça, c'est ça, oui. Donc même un RPG un petit peu.
Mais il y a un truc aussi, c'est que pour avoir plus d'armes, la plupart du temps, il faut que tu ailles sur ces endroits où tu dois spécialement y aller, faire un puzzle ou débloquer chemin et tout pour récupérer le truc. Et aussi, il y a pas mal d'activités de nid de spectre où tu dois aller et juste taper, en fait.
Quel enfer, pardon, hein, mais ça, c'est vraiment des trucs genre non, et là, jamais deux fois.
T'es obligé de faire ça pour améliorer tes armes, et c'est pour ça qu'en fait... t'as une sorte de cycle comme ça où tu dois aller taper des ennemis pour que quand tu tapes des ennemis, ça soit plus rapide, etc. On baisse la difficulté
et puis c'est parti. Okay. Ouais, ouais, ouais. Alors j'avais des questions un peu plus anecdotiques mais qui me rendent curieux, donc très rapidement, je vous demande pas de développer là-dessus, le couple dont il est question dans le jeu, est-ce qu'au début du jeu ils sont ensemble depuis longtemps ou pas?
Oui, d'accord. En fait ce qui s'est passé c'est que Antea du coup elle a été formée en tant que bannisseuse par la personne qui les appelle à venir. C'est des personnes qui vivent en Europe, en fait, et elles sont appelées en Nouvelle-Angleterre.
Ah cool, tu réponds à ma deuxième question, qui était, est-ce que c'est ancré dans un monde réel ou est-ce que tout est...
Non, c'est en Nouvelle-Angleterre.
D'accord. Ok, ok.
Et du coup, au XVIIe siècle, et ils reçoivent une lettre d'un type qui s'appelle Charles Davenport, qui est donc le mentor d'Antea, qui lui dit, viens, s'il te plaît, il y a un cas de hantise un peu chelou et tout, viens m'aider. Et elle, Antea, a formé du coup son copain, compagnon, son partenaire, qui est un vétéran de la guerre. Bon, on est sur le mec un peu bourru.
On est sur l'Écossais avec l'accent à couper au couteau. Voilà.
Et donc,
les baloches de Satan.
Et du coup, il y a aussi cette double, c'est sa mentoresse. Elle peut plus faire grand chose vu qu'elle est un fantôme.
Ouais.
Et du coup, ça facilite aussi le fait que t'apprennes ce qui se passe, etc. Ouais. Au fur et à mesure.
Mais donc oui, c'est un couple préexistant d'un certain nombre d'années. Et rien que ça peut me rendre un peu curieux parce que c'est quelque chose, je trouve, qu'on voit assez peu dans le jeu vidéo. Un jeu vidéo qui s'intéresse à des relations de couple.
Et l'exposition est pas mal. On parlait tout à l'heure de l'intro de Skull and Bones. Pour le coup, là, en fait, quand tu commences le jeu, ils sont dans le bateau, ils viennent de se réveiller, ils viennent d'arriver à New Eden. Et ça fonctionne trop bien, ils sont super amoureux.
Ça discute sur l'oreiller. En fait, c'est autant une histoire de fantôme qu'une histoire d'amour, hein, clairement.
C'est sorti le 13 février.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, oui.
Mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très bien porté, je trouve, aussi bien par... Alors moi, j'ai plutôt fait le doublage en anglais, etc.
Enfin,
mais
c'est sorti le 12, je crois, non ?
L'écriture des...
Moi, j'avais noté ça. Lundi.
Et justement, je parlais de l'économie de moyens, etc. Il y a plein de trucs, effectivement, où tu te dis, ah putain, ils ont vraiment bien travaillé la mise en scène. Bah voilà, moi par exemple, je me suis arrêté à un boss là où directement j'ai fait, waouh, c'est le même boss que dans tous les jeux français édités par Focus qui essaient de faire du Witcher.
Ah oui.
C'est à chaque fois. D'ailleurs, à chaque fois, le héros a la même tête d'ailleurs. Enfin,
c'est vrai.
Les side cuts, on arrête, c'est terminé. juste avant ce boss où je me suis dit, le gameplay est pas top, etc., la mise en scène de l'invocation de ce boss, c'est un super moment. On travaille sur les silences, la musique est bien amenée, les plans bien cadrés sur lui qui prépare son truc au sol, son symbole.
Des fois, il y a ça aussi.
Et puis, après, voilà,
il y a
aussi, mais
bon, des petits bugs comme ça. Ouais, ok. D'accord. Donc dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'on est sur un avis, parce que je me souviens que vos premiers retours étaient genre attention.
Il faut s'accrocher un peu.
Finalement, on est sur un jeu qui, dans sa proposition,
même l'univers est super bien construit. Ouais. Ça fonctionne trop bien. Tu comprends très rapidement quel est le rôle d'un banisher et tout, ce qui est pas forcément hyper facile, tu vois. Dans Vampire, il mettait beaucoup plus de temps à te mettre en avant, en fait, genre juste quel était le contexte.
Ouais.
Là, t'arrives et c'est direct exposé, c'est hyper parlant. Tu comprends tout ce qui se passe et tu comprends vite les enjeux. Et juste, les relations entre les personnages, surtout vu que c'est différentes zones. Mmh. Tous les personnages et toutes les zones expliquent l'histoire, mais pas d'une manière forcément très chronologique. Et quand tu comprends au fur et à mesure ce qui s'est passé et tout, après, du coup, justement, le premier boss, quand l'histoire elle s'enclenche, franchement, c'est un plaisir.
Ok, cool. Et alors, peut-être une indication pas forcément très précise, mais
peut-être
toi,
une note sur 10
pour le... voilà, c'est ça. Bon, c'est peut-être plus simple comme ça. Mais j'allais dire, tu y as passé à peu près combien de temps pour le finir?
Environ 35 heures, mais ça peut aller beaucoup plus. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais, mais justement, du fait que tu dois retourner en arrière certaines fois, etc. Je pense que tu peux le finir en 30 heures. Tranquille.
D'accord, très bien. C'est donc Banishers. Oui, c'est ça.
J'étais parti pour 20 heures, moi. Ouais. Et puis après,
Finalement, c'est ça. Banishers, Ghosts of New Eden, c'est donc disponible depuis le 12 février. C'est disponible dès maintenant. Si ça vous intéresse, on va maintenant encore une fois changer un petit peu d'ambiance.
Oh.
Continue à parler de jeux vidéo. Et c'est toi qui va le faire, Gauthier, en nous parlant de Ultros.
Oh oui.
Alors, qu'est-ce que c'est?
Oh, Ultros,
Gauthier, parce que pour moi, c'est un boss de FF6.
Ah, bah là, Ultros, c'est l'overdose de couleurs, en l'occurrence. C'est un Metroidvania qui est sorti il y a quelques jours et qui va couper effectivement un peu avec la DA très naturaliste qu'on vient de découvrir. Ultros est développé par notamment un certain Niklas Åkerblad.
D'accord.
Connu sous le nom de El Huervo, qui fait de la musique, mais qui a aussi fait, par exemple, les artworks officiels de Hotline Miami. Des trucs qui avaient bien marqué la scène indépendante à l'époque.
Et qui effectivement se posait là en termes de couleurs déjà.
Exactement. Et donc là, une petite équipe de 5 personnes qui travaillent sur ce jeu, avec là-dedans également Rad Vader, compositeur de musique, notamment sur The Gunk. Et c'est ce jeu que vous avez vu apparaître en vous disant « Wow, est-ce que c'est lisible cette histoire ?» Et donc la réponse est « On va vous emmener effectivement peut-être à votre limite ».
Okay.
Alors, tu as des arrière-plans bien définis, des avant-plans bien définis.
L'animation de course est incroyable.
L'animation de course est incroyable. Donc, très inspiré par cette science-fiction des années 70. Hein, ouais. Il n'a pas volé son qualificatif de psychédélique, pour le coup. Dans une histoire très tournée sur les matières vivantes et la chair, puisque je crois vraiment que tout se passe dans un immense utérus galactique ou stellaire, ou je ne sais plus exactement.
C'est le niveau de Earthworm Jim étiré sur un jeu. Il y a un côté presque, je trouve, quand ça a zoomé un petit peu sur le personnage et sur les détails des trucs, je ne sais pas si vous voyez le trait de Chariot Spiral, un illustrateur et auteur de BD français. Du Chariot Spiral, c'est celui qui bosse avec Géro sur sur Sol Cresta. Cresta, je ne sais plus.
C'est
un autre jeu. Il y a un autre jeu qui s'appelle comme ça. Et je trouve qu'il y aurait un peu ça, mais ultra coloré.
Oui,
tu vois.
Oui, c'est vrai.
C'est marrant.
C'est vrai.
Donc
c'est
vas-y,
vrai.
Pardon, je t'interromps.
Non, mais il y a aucun problème. C'est sublime. Moi, je trouve ça sublime et ça marche très très bien sur moi. Ça permet des designs effectivement très travaillés pour une histoire qui de base, tu te dis attends, est-ce que c'est juste un Metroidvania avec une DA? DA que tu n'oublieras pas, mais c'est un jeu qui a plusieurs twists.
D'accord.
Des twists assez intéressants qui vont s'étendre sur une huitaine d'heures, quelque chose comme ça. Je dois être au tiers du jeu là actuellement. En gros.
Oui, parce qu'on est, pardon, je t'interromps encore une fois, on est comme pour Sylvain tout à l'heure, on est sur des impressions
c'est
que tu livres.
C'est une présentation, c'est j'ai essayé ça, je vous dis pour l'instant un petit peu comment je me sens. Déjà, j'ai envie d'y retourner, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, beaucoup de bizarreries infusées dans cette narration avec ces différents personnages, etc. Si vous avez envie d'un Metroidvania un peu cryptique et que Silksong manifestement n'est pas arrivé pour le 14 février, peut-être que ça vous pourrez avoir la dose via ça. Et les twists ensuite, c'est que c'est un Metroidvania à boucle. C'est-à-dire que tu as 7 grands objectifs à mener sur la carte du jeu, mais à chaque fois que tu battras ce boss, ou en tout cas que tu exécutera une espèce de forme vivante qui traîne dans une capsule, tu vas être renvoyé là où tu es apparu.
Au tout début du jeu,
mais tu auras gardé tout ce que tu as révélé de la carte,
un
gadget à tout faire, notamment dans lequel sera stocké, par exemple, le double saut et ce genre de choses. Et ton arbre de compétences aura été remis à zéro, sauf pour les nœuds de cet arbre que tu as réussi à sauvegarder en utilisant un consommable particulier.
Okay.
Donc, de boucle en boucle, tu vas essayer les pouvoirs et te dire ça mérite effectivement que ce truc que j'ai, je suis allé chercher à la sueur de mon front, ça, eh bien, mérite bien, d'être garde, dépensé, ouais, je okay. garde pour la suite. Et ensuite, il y a un deuxième twist dans ce jeu, c'est que c'est aussi un peu un jeu de jardinage. Okay. Si je peux dire ça comme ça, dans le sens où...
Un jeu wholesome, du coup.
Un jeu wholesome, automatiquement,
tout simplement. Ouais.
Où tu vas ramasser plusieurs types de graines que tu vas pouvoir poser, planter à des endroits dans le jeu.
Ouais.
Et tout ça participe à d'un immense grand puzzle à la hauteur de la map. Pour les gens qui aiment ces Metroidvania, qui ont un puzzle général qui se remplira effectivement pour les gens qui veulent le 100%, il est, en tout cas de ce que j'en comprends, parce que c'est encore très cryptique, ça a l'air assez intéressant de, voilà,
d'essayer de déchiffrer un peu, c'est ça tout ça ?
Déchiffrer et puis surtout réinstaller la vie dans cet endroit,
d'accord,
en plantant les bonnes choses aux bons endroits, etc. et en permettant peut-être aux plantes de se rencontrer dans à partir des différentes zones où tu les plantes. Pour l'instant, je suis encore en découverte de cette partie-là. Et il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, ça, du coup ça fait un troisième twist, qui est que tu récupères de la vie en mangeant. Bon, jusqu'ici rien de foufou, mais tu manges surtout des choses bizarres, des morceaux de monstres que tu auras tués. Et en fait, c'est également ce qui va te permettre de rentrer de l'XP. Quand tu manges, la teneur en différents nutriments va faire monter 4 jauges et ensuite débloquer des trucs dans ton arbre de compétences consommera tel nutriment, tel nutriment, tel nutriment. Donc parfois t'es juste là en train de te goinfrer, t'es là genre ça pourrait me sauver dans un combat, mais non, là je veux vraiment débloquer ce truc dont j'ai besoin en combat.
Je sais pas si dans l'exécution c'est très similaire, je pense pas, mais ça rappelle dans le principe Odin Sphere qui faisait ça de Vanillaware, où pareil la bouffe te donnait de l'XP également.
Et ben ça a été cité effectivement quand je regardais un petit peu ce qui se disait sur le jeu avant de m'y mettre. Bon, maintenant il faut effectivement revenir sur le point noir de cette histoire, parce que sinon c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. C'est quand même
Sur une très bonne nouvelle pour les amateurs de Metroidvania.
On verra. En tout cas c'est vraiment à essayer. En tout cas moi je suis content de m'y être mis, mais il y a un problème, c'est le système de combat. Le feeling n'y est pas vraiment à mon sens.
C'est quand même un gros problème, non ?
Enfin, moi, ça peut être rédhibitoire pour moi, effectivement.
Écoute, là, pour l'instant, ça m'a pas... J'ai pas genre perdu à cause de ça, mais j'ai pas encore vraiment réussi à prendre véritablement plaisir. Il y a un côté un peu hasardeux. L'allonge de vos petits couteaux, là, est quand même très basse. Je sais pas s'il y aura d'autres armes après, c'est une possibilité. Mais il y a effectivement... ce qu'on pouvait un peu deviner en regardant les bandes annonce, cette impression parfois que les animations, là on vient d'en voir une sublime d'ailleurs quand tu rentres dans le pod, ces animations là elles sont pas vraiment au service véritablement du gameplay, lecture du jeu. Et puis, il y a un système de combat qui est bizarre, par essence, avec des choix bizarres, un truc à base de... déjà, le jeu t'encourage à varier un maximum tes combats. Il y a des trucs qui sont beaucoup moins cool à faire en combat que d'autres. Parce que si tu varies tes combats, tu récupères de la meilleure viande. Tu découpes mieux, tu bourres pas, tu ne tabasses pas. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des trucs qui sont beaucoup moins agréables à exécuter dans les trucs que va te proposer le jeu. Mais on ne peut pas dire qu'il y a deux jeux qui ont cette tronche.
C'est sûr.
C'est absolument certain. Et je termine, la BO est incroyable.
Je t'ai vu en parler, de cette BO.
Rad Vader, moi déjà sur The Gunk, j'avais complètement flashé sur son travail récent. Et là, la BO, c'est de la folie pure, c'est extrêmement subtil, ça mélange de l'électro avec des sections de cordes, et notamment de violoncelle qui sont à tomber par terre. J'ai vu des gens comparer aussi le côté, l'approche parfois minimaliste et qui prend son temps avec du Ravi Shankar, et je suis d'accord avec aussi. Et il y en a pour 3 heures de musique. Super à écouter en bossant, etc. Et c'est l'un de ces jeux où tu t'arrêtes régulièrement en disant oula, c'est beau ça. Je vais rester un peu dans cette pièce. Je voudrais pas déclencher un script qui pourrait couper la piste. Donc pour l'instant, moi je suis complètement dedans. Ça se passe très bien sur Steam Deck, sans grande surprise. Ça aurait été, le contraire aurait été étonnant. Et Ultros, qui est vraiment un titre qui ne suggère absolument pas ça.
Oui, c'est vrai, mais que je trouve marrant. J'aime bien, moi, quand c'est juste comme Ultros.
Ultros.
Et puis c'est bon, on n'a pas besoin de plus. Ultros, donc disponible. C'est pas d'histoire d'accent anticipé, tout ça. Le jeu est disponible.
Le jeu est sorti,
Très bien. Parfait, merci beaucoup. On a bien parlé de jeux vidéo, là, j'ai l'impression. Mais vous le savez, c'est Origami, alors on parle de jeux vidéo, mais pas que. Et je suis content parce que cette rubrique Mais pas que aujourd'hui signe le retour de notre cher Sylvain qui va nous parler. Alors aujourd'hui, de quelque chose ou qui peut me faire un signe dès maintenant, s'il veut que je lui donne un petit peu de temps, je vais dans ce cas, moi, faire ma première recommandation, enfin ma seule recommandation, je vais commencer par la mienne et je vais laisser ce pauvre Sylvain se préparer un petit peu. Moi, j'en avais, je l'avais un petit peu teasé au début de ce numéro, quand il était question de Monsieur Murayama et de Suikoden. Suikoden est une série de jeux inspirée par un roman chinois, ouais. Et c'est ce roman dont je vais parler maintenant. Qui s'appelle Au bord de l'eau, Shui Hujuan en langue, enfin en mandarin, minus l'accent tonique que j'ai peut-être pas du tout maîtrisé. c'est un de ces quatre grands romans chinois que la Chine elle-même considère comme ses trésors de littérature, aux côtés du Jinping Mei, de la Romance des Trois Royaumes et du Voyage en Occident, qui sont en tous les cas pour les deux derniers que j'ai cités. Très connu. Le Voyage en Occident, c'est ce qui a inspiré Dragon Ball, tout ça. Les Trois Royaumes, on en entend parler assez régulièrement dans la pop culture, notamment japonaise. Donc, aux côtés de ces romans-là, Au bord de l'eau, c'est l'histoire d'un certain Song Jiang qui, au XIIe siècle, si je ne me trompe pas, est un genre de notable qui va devenir... qui va se retrouver à la tête d'une insurrection, mais vraiment genre une insurrection à l'échelle du pays entier, et on sait que la Chine est un grand pays, et qui va mener notamment une bande donc, de 108 brigands, de 108 bandits, et qui sont sur lesquels le roman va s'attarder plus ou moins, c'est-à-dire que tu vas vraiment avoir entendre parler de ces 108 personnes. On le voit là sur les images, il y a deux couvertures, c'est en deux tomes, et chaque tome fait ses bonnes 1000 pages, donc c'est quand même un gros truc. Et tu vas avoir des personnages comme ça très très différents forcément quand on a 108, très variés. Alors évidemment c'est pas 108 personnages ultra important pour le déroulé général de l'histoire. Sinon
comment c'est présenté
plus.
C'est par chapitre un personnage
Pas toujours.
Il y a une fiche de perso et tout.
Pas toujours littéralement un chapitre un personnage, ouais. Mais souvent tu vas passer d'un personnage à l'autre en changeant de chapitre.
Une fiche de perso. Quelle est sa constitution? Il a combien d'extérité?
Enfin, je veux dire, c'est marrant de voir qu'en fait, quand tu joues à Suikoden, après tu dis, bah oui, en fait, c'était un RPG dès le début, ce truc.
Comment tu fais justement pour réussir à différencier 108 personnes qui sont issues de ton imagination?
Le truc, c'est qu'en fait, voilà, déjà, encore une fois, tu reviens pas longuement sur les 108. Parfois, c'est juste,
il y a ce gars-là qui est marrant.
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, en fait, l'enjeu du bouquin, c'est comment Song Jiang réunit ces 108 personnes. Donc, parfois, il y en a, il traçait, il a vu quelqu'un, il a fait, oh, tu viens, et le mec, il fait oui. Et lui, c'est un des 108, et c'est comme ça. Donc, tu vois, parfois, s'ils sont vraiment complètement, ils ont aucune importance. Mais il y en a sur lesquels tu reviens un peu plus longtemps, notamment certains Li Kui, qui est surnommé le tourbillon. Noir. Alors ça, c'est un problème qu'on peut rencontrer, nous, lecteurs et lectrices occidentaux et occidentales, de ce genre de littérature chinoise, c'est que chaque personnage, et il y en a 108, a plusieurs noms. Il y a son nom d'usage, il y a son vrai nom parfois, il y a son nom honorifique de temps en temps, il y a son surnom, et il y a l'étoile à laquelle il correspond dans ce roman en particulier, puisque ces 108 personnages en fait correspondent à 108 étoiles de la destinée.
C'est un peu comme toi, il y a le spécial K, il y a le California Marquis,
bien
sûr, le Kives.
Il y a Kevin avec un K, c'est aussi tout compris. Moguri, bien sûr, la Mogure.
Et le titre honorifique, c'est quoi?
Et mon pote. J'aime parfois. Et hé, connard! Ça, c'est le titre moins honorifique. Mais donc, chaque personnage peut avoir plusieurs noms. Ça peut être le bordel, parce que c'est déjà compliqué de retenir autant de prénoms. Mais donc, voilà, ce fameux Li Kui, qui est aussi appelé le tourbillon noir, qui est un mec ultra turbulent, qui fout la merde partout, qui se bat avec deux haches, mais qui est aussi d'une loyauté sans faille. Et tu retrouves, en fait, des archétypes comme ça de personnages que tu vois. C'est un roman qui date du 14e siècle, je crois, qui est attribué à un certain Che Nai Han, mais qui a très probablement été écrit par différents auteurs et qui est à la base issu d'une tradition orale. Et ça se sent vraiment quand tu le lis, chaque chapitre est précédé d'un petit résumé du chapitre. Et ensuite, à la fin de chaque chapitre, il y a formule qui dit « Vous voulez apprendre la suite ? Eh bien, restez. » Enfin, tu vois, si tu sens le
truc des compteurs. Faut le lire en chantant l'introduction.
Tu pourrais presque,
trop fort.
Ouais, tu pourrais presque.
Trop bien.
Et, Et donc, tu as des archétypes de personnages comme ça qui ont été réutilisés après dans la littérature et la culture populaire mondiale, mais peut-être en particulier asiatique. C'est-à-dire que tu vas avoir plein de tropes après japonais qui sont un peu repris de ça aussi, en particulier. Il y a aussi Wusong, le pèlerin, qui est connu pour avoir pour s'être battu et avoir vaincu un tigre à main nue. Tu vois, c'est ce genre de personnages qui ont des
comme toi aussi d'ailleurs,
comme moi aussi, c'est mon autre surnom, mais il était un peu long celui-là donc je l'avais pas dit. Il y a excellent skater aussi dans mes Et en fait, dans l'ensemble, les personnages, c'est des gens qui foutent la merde. Ils foutent la merde. On parle d'une insurrection.
Ouais.
On parle d'une insurrection vraiment, encore une fois, à l'échelle de tout un pays où on est. Ça se passe au moment de la fin de la dynastie Song, si je ne me trompe pas. Et il est vraiment question de dire non, mais là, c'est n'importe quoi. C'est les gilets jaunes de l'époque, mais qui vraiment, genre, au bout d'un moment, vraiment foutent la merde dans tout le pays. Et c'est assez impressionnant de lire ça, en fait, de voir que c'est un roman d'insurrection, vraiment.
Ouais.
Et de voir que c'est un roman que la Chine... On sait comment on voit la Chine de chez nous, souvent, sur le côté totalitaire et tout ça. C'est un roman que la Chine a toujours, même, y compris révolution culturelle, tout ça, ça a pu être plus compliqué, mais c'est un roman qui est resté important pour la Chine. Alors que de notre point de vue, d'ici, de loin, on pourrait se dire « Bah attends, non, c'est un roman qui parle littéralement de faire la révolution. » C'est pas du tout l'image que nous renvoie le...
C'est quand même le mythe de la révolution en France, tu vois, où genre
oui.
c'est...
Ouais, mais là, je trouve que c'est différent. En France, on nous fait croire... Enfin, oui, ouais, genre, en France, on nous ramène dans le mythe de la révolution un truc que ça n'a pas vraiment été, quoi, je trouve.
Oui. Oui,
ouais, ouais, mais c'est ça. Mais enfin, ouais. Cela dit, peut-être que c'est comme ça que peut-être. La Chine s'en sort, effectivement.
On n'a absolument pas dit que c'était pas une vie, c'était une vision, hein, le totalitarisme en Chine.
Oui, c'est ça.
Je ne dis pas que tu l'as dit, mais je préfère le dire pour le chat.
Non, non, c'est comme on le voit d'ici. Je sais que ça va vite. Enfin, tu vois.
Oui, bien sûr.
Ce genre de.
On n'a pas dit qu'on l'avait inventé en France.
Non, voilà, c'est ça. Mais donc ça peut paraître un peu étonnant, et c'est d'autant que c'est un roman qui s'inspire de, enfin qui peut vachement être comparé à ce qu'a fait Dumas avec les Trois Mousquetaires, dans le sens où ce fameux Song Jiang a existé, cette insurrection a existé, pas sous, ça se prétend pas du tout roman historique, attention, il y a du fantastique et tout ça, il y a des gens qui ont des pouvoirs et tout, mais ça romance des événements existants. Et c'est des personnages aussi assez picaresques dans l'idée, parce que c'est des anti-héros de certaines manières, des gens qui sont très... très étranges pour être les héros de l'histoire. Parfois, vraiment, tu lis des trucs et tu fais « Bah non, mais là, vous êtes méchants, là. Là, vous foutez juste la merde, en fait. » Mais ça rend la lecture assez distrayante, quoi.
Parce que c'est des gens qui sont entiers.
C'est des gens qui sont entiers, en tout cas, quoi qu'il en soit, sauf certains qui sont un petit peu plus roublards.
C'est ceux qui se mettent en bande pour te balancer des harpons dessus dans Skull and Bones.
Ah bah, donc une référence que je ne peux pas capter, mais j'en doute pas. Voilà, donc c'est Au bord de l'eau, bien sûr, c'est une recommandation qu'il faut prendre avec ce que j'ai précisé, deux gros bouquins de pas loin de 1000 pages, avec une structure de chapitre qui est toujours la même, ça peut un petit peu déstabiliser, mais c'est un de ces rares, c'est peut-être le seul, des quatre grands romans chinois qui a le bon goût d'être disponible en poche et donc accessible en français, traduit et tout ça, intégral, très accessible, quoi. Contrairement aux autres que tu peux acheter que chez la Pléiade ou des trucs comme ça, et ça te coûte une blinde. Donc c'est plutôt cool de lire ce roman-là, qui a eu une influence énorme sur la Chine, sur l'Asie en règle générale, et du coup aussi un petit peu sur le reste du monde, quoi, forcément. Voilà. Maintenant que je pense que j'ai fait gagner assez de temps, j'ai peut-être fait gagner trop de temps.
Il s'est barré, du coup.
Il s'est barré, c'est
il
ça.
Il a oublié.
Sylvain, je suis content de le réaccueillir parmi nous pour nous parler de quelque chose qui est, alors pas que du jeu vidéo, mais un petit peu quand même, il me semble.
C'est un petit peu du jeu vidéo, effectivement. Je vérifie juste que mon micro marche. Oui, c'est un petit pas de côté. C'est comme ça qu'on dit ça. Je pense qu'en plus, ce que je vais vous conseiller, beaucoup de gens l'ont peut-être déjà regardé. Mais moi, je vous emmène là tout de suite vers le dernier documentaire sorti par Noclip et qui est consacré à Return to Monkey Island. Donc, jeu compliqué, hein, pareil. Un jeu qui est revenu en 2020, en tout cas, sur une série qui a été commencée en 90. Donc, une série s'est étalé sur 30 ans, voire un peu avec les interviews de développeurs et tout ce qui va bien comme image d'archive et ce genre de choses, de parler donc avec Dave Grossman, avec David Fox et évidemment avec Ron Gilbert, de comment est-ce qu'un jeu comme ça a pu être rendu possible, de ce que ça veut dire aussi de reprendre une série qui a déjà 30 ans, sachant que les attentes des fans, elles, ont peut-être pas tant bougé que ça en 30 ans, alors que du côté créateur, en tout cas, les enjeux d'un jeu comme ça sont plus du tout de raconter une histoire de pirate. C'est plus, on n'est plus du tout sur ce genre de problématique. Je trouve ça hyper intéressant. C'est beaucoup de choses qui ont déjà été dites à droite à gauche par les différents intervenants que je viens de vous citer. Donc, comment est-ce que Disney a pu laisser faire ça, enfin ce jeu-là, comment est-ce que Devolver a pu signer le contrat, pourquoi ce choix de direction artistique qui a beaucoup fait jaser évidemment à la sortie du jeu. Ça, c'est des choses sur lesquelles ils reviennent, sur lesquelles ils vont s'expliquer. C'est aussi l'occasion de voir ce qu'on voit peut-être pas ailleurs dans tout ce qui a été dit sur Monkey Island et sur Return to Monkey Island. C'est pas mal de scènes, pardon, qui ont été coupées au montage du jeu, donc il y a pas mal de scènes inédites à voir, et c'est, moi je trouve ça beau en fait. C'est juste touchant de voir ces mecs là qui avaient 20 piges quand ils ont commencé à faire Monkey Island, qui aujourd'hui voilà, bah, ont tapé la cinquantaine et ont toujours envie d'explorer cet univers là mais tu sens quand même dans leurs mots que c'est un peu, ça signe un peu la fin pour eux, qu'ils ont peut-être dit un peu tout ce qu'ils avaient à dire sur cet univers-là, et que maintenant ce serait vraiment se prêter au petit jeu de allez, on va vous en voulez plus, on va vous en faire plus, même si on n'a plus rien à dire. Là, je pense qu'ils ont sûrement accepté ce documentaire parce qu'ils ont le sentiment d'avoir bouclé une boucle. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris en ayant regardé ce truc-là. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Bah, allez voir nos clips. Faut-il vraiment faire de la pub pour cette petite chaîne YouTube ? Voilà, c'était extrêmement, extrêmement chouette. Et puis, vous découvrirez évidemment là-bas plein d'autres documentaires sur plein d'autres jeux qui valent la peine d'être vus.
Merci beaucoup. On est sur un documentaire de à peu près combien de temps ? Je ne sais plus si tu l'as dit.
Non, je ne l'ai pas dit du tout. C'est une heure et demie. Une heure et demie qui revient vraiment sur toutes les... Mais tu vois, c'est marrant parce que là, on a l'équipe. C'est vraiment, tu as les deux fondateurs du jeu, les deux piliers du jeu avec Ron Gilbert et Dave Grossman qui sont là. C'est un jeu qui, après l'épisode 2, a été brinque-ballé dans les mains de plein d'équipes avec un troisième jeu qui était hyper beau, mais qui était fait par des mecs qui, franchement, demandaient pas du tout à reprendre un jeu comme ça et qui ont eu, je pense, du mal à se réapproprier l'histoire et tout du jeu. Qui, attention, c'est excellent, c'est pas ça que je suis en train de dire.
Oui.
Le 3, pareil, qui a géré la 3D et qui a été encore dans une équipe différente.
Le 4, du coup, oui.
Le 4. Le 5 qui arrivait. Alors, il y avait Dave Grossman qui était revenu, mais c'était passé chez Telltale en épisodique et tout, pareil. Plein de trucs assez complexes. Tout ce cheminement-là aussi, c'est très, très chouette qu'ils reviennent là-dessus. Ils ne sont pas faits... Ils n'ont pas vraiment omis de gros sujets sur la série Monkey Island. Après, c'est nos clips. Comme très souvent, c'est du documentaire, certes, mais c'est quand même un peu une hagiographie aussi. Oui, c'est ça, c'est une commande. On va faire un très beau produit qui va un peu caresser dans le sens du poil. Mais je sais pas. Bon, après, je suis très, très lié à cette série. Donc, quelque part, je pense que je suis très clément là-dessus.
Ouais.
Mais même si vous n'avez pas forcément d'affect pour la série Monkey Island, je pense que ça vaut le coup d'aller voir ça, ne serait-ce que pour voir comment est-ce qu'on vieillit en tant que développeur de jeux vidéo.
Ah ouais.
C'est con à dire, mais...
Ouais. En ne changeant pas de chemise, apparemment.
Non.
En gardant la même, ouais.
Ça, c'est important, effectivement. Garder la même chemise, l'identité, malgré tout. Ton visage peut changer, ta chemise, elle, doit rester la même. C'est pas le joueur du grenier qui dira le contraire, par exemple.
Ils ont, je sais pas s'ils ont un Patreon, nos clips, pour les aider à financer tout ça. Si. Nous, on en a un.
Oh.
C'était juste pour dire qu'on en avait un, vous inquiétez pas.
Ouais.
J'en ai rien à foutre.
Ah, j'aime. De savoir j'aime ce qui se passe. Ah, ouais.
Donc, nous, on a un Patreon qui nous permet de vous proposer cet hebdo qui est en train, gentiment, de toucher à sa fin. bah, de vous proposer également, c'est le moment un peu de rappeler là, qu'on a eu Wishlist cette semaine, la première de Wishlist, qui était cette émission qu'on avait promise dès le lancement d'Origami. Oh non, attends, c'était pas pour dire ça, tu fais comme si ça faisait 1000 ans, il fallait le temps de la préparer. Et elle est désormais disponible, tu étais avec Atomium et Marion Bargiaki, qui est donc une double marraine pour Origami.
Oui,
ouais, double marraine des émissions, effectivement. Du coup, je me demande maintenant si on se retrouve dans une situation où si on lance quelque chose de nouveau sans Marion en épisode 1, qu'est-ce qui se passe ?
C'est un incident diplomatique direct.
Est-ce que vexation
ou alors ça se...
On va voir si Internet Explorer reçoit un recommandé, une demande de comparution.
Non, mais effectivement, voilà, donc une émission de 2h11 je dirais, avec à la direction artistique Copain du Web, la musique Barry Leach, une petite folie, et j'ai eu beaucoup de chance, qui répondent à mon email, en fait, tout simplement. Et avec Atomium et Marion, on se pose la question sur ce premier épisode de quels seraient les jeux, en tout cas selon elle et lui, qu'on aurait voulu voir plus mis en avant, les jeux indépendants qu'on aurait voulu voir mis plus en avant durant l'année 2023, qui a été une année extrêmement foisonnante. Et ça a été difficile parfois, simplement, même en criant très très fort avec sa propre chaîne ou sa propre infolettre, dans le cas de Marion, de dire aux gens peut-être que ce machin là, etc. Et ça va être un peu le but, en fait, dans Wishlist.
De manière générale, Wishlist, le principe est de mettre
le truc s'appelle
en
comme ça
les...
En gros, si vous estimez que vous êtes déjà un petit peu dans la sauce avec votre backlog Steam, le but est de vous pourrir la vie, en fait,
tout simplement,
et de vous enjoindre à mettre dans votre wishlist Steam, parce que l'algo il regarde là-dedans
j'imagine que vous en parlez dans l'émission, mais on sait que c'est assez c'est des enjeux assez importants, mine de rien.
C'est des enjeux très importants pour les développeurs, et donc ça sera une mensuelle tournée sur le jeu indépendant, sur les jeux, vous en montrer un maximum, et puis aussi parfois parler des sujets sérieux, et peut-être se pencher, Atomium reviendra très probablement parler de la création aussi de jeux indépendants, parce que il a la double casquette. Mais c'était un moment franchement génial, un moment délicieux à créer, et je suis très content de l'accueil fait à l'émission jusqu'ici. Donc,
trop bien. Et donc notre Patreon permet de financer ce genre d'émission. Ça permet aussi de financer Internet Explorer, ce qui va avoir lieu la semaine prochaine, si je ne me trompe pas.
Oui.
Ouais. Petit teasing sur le contenu, ou tu préfères garder non, on peut rester sur ce. Moi, ça me va très bien.
Elle cherche un mot flou.
On sait.
Taylor Swift.
Yes.
Et de l'eau.
Oh, waouh. Tu m'as eu. Moi, je serai là, en tous les cas. Ce sera toujours avec Lucie Ronfaux, évidemment, et toi-même, et une invitée.
Évidemment.
Pour le coup, qu'on laissera découvrir la semaine prochaine. Et il y a également Super Vieux Jeu qui est tourné la semaine prochaine, qui sera diffusé sur. Enfin, qui sera mis en ligne ensuite, sûrement dans le courant de la semaine prochaine, ou peut-être la suivante, on verra. Voilà, tout ça, c'est horrible.
L'invité, c'est Taylor Swift.
L'invité, c'est Taylor Swift. C'était ça, en fait, le teaser.
Oh, waouh!
Non.
Écoute, là, peut-être qu'on risque d'avoir des problèmes. Origami commence à prendre sa forme, alors pas finale, jamais, mais en tous les cas, la forme qu'on avait un peu en tête à la base. Il reste encore des petites briques à rajouter à tout ça. Ces émissions qui se lancent, ce nouveau plateau qui se fait, ces lampes qui deviennent malheureusement vertes un peu tout le temps. Mais voilà, ça commence à ressembler de plus en plus à ce qu'on avait en tête à la base. Nous, on en est ravis, on espère que vous l'êtes aussi. On en profite pour vous remercier, de vous remercier à nouveau de nous avoir suivis aujourd'hui et en règle générale. Je me tourne aussi vers vous, Gotoz et Héloïse.
J'ai survécu.
T'as survécu à cette émission.
T'as tellement assuré.
Bravo. Bravo. Désolé de t'avoir demandé de venir quand même malgré.
Non, mais ça va. C'est la fin là. Je sais pas pourquoi c'est revenu d'un coup.
On sait pas.
Oh.
Oh bah oui, c'est comme ça. merci beaucoup. Merci à toi, Sylvain, comme d'habitude derrière la régie, et aujourd'hui aussi devant la caméra, et ça faisait très plaisir. On se retrouve. La semaine prochaine pour l'hebdo, mais vous l'avez compris, la semaine prochaine pour plein d'autres rendez-vous sur Origami. À très bientôt, merci, ciao.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.